faut qu'on trouve le nouvel élément, et c'est ce qu'il lui dit en plus. Enfin, c'est ce...
Le cannabium.
J'ai découvert le THC.
Wow. Découvrez la vraie histoire de Marie Curie, qui s'appelait en fait Marie-Jeanne Curie.
Il y a tout le temps de la fumée dans son laboratoire, elle doit travailler très dur.
Yeah, man.
Avec un reggae derrière.
J'ai pépé.
Vous n'avez pas compris mes expériences.
La fée verte.
In a world. No, in a world, Jack. What do you mean, no, in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Feta Bea, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Aujourd'hui, on vous ouvre les portes de notre laboratoire de physiciens chimistes du dimanche et on pioche dans nos becs benzène, agitateurs magnétiques et autres pH mètres dans le but d'atomiser les chromosomes Y de notre cinéma contemporain et faire place aux femmes avec un grand F comme film biographique. Oui, le biopic, c'est le genre qu'a choisi la réalisatrice Marjane Satrapi pour raconter l'histoire radioactive de Marie Curie, l'inventeuse de Tchernobyl. Et pour en parler, je me suis entouré des plus éminents scientifiques avec qui nous allons percer à jour les secrets de cette BA. Et eux aussi ont peut-être trouvé des éléments nouveaux pour mieux comprendre ce drôle de monde qui nous entoure. Laissez-moi vous les présenter. Ambiance. Avec moi, autour de la table, Clément est là.
Je suis le professeur Ritchie. J'ai découvert un nouvel élément chimique, le douyonium. Quand on le bombarde sur les spectateurs, il se précipite en salle armée de pop-corn et en ressort avec une intense douleur rectale.
Le douyonium, oui, je l'inscris tout de suite à la table périodique. Douyonium, Clémence aussi, éminente scientifique, est avec nous autour du plan de travail.
Oui, bien sûr, je suis moi, quant à moi, le professeur Clémence Balboa. J'ai découvert le stalonium, qui est un dérivé inversé de l'hélium. Et alors, mes chers amis, j'ai amené un extrait de stalonium
oui,
avec moi et tout
ça.
Le matériel
oui,
pour faire une expérience en live. Alors je demanderai un assistant, Kevin par exemple.
Bonjour.
Bonjour Kevin. Bonjour.
Kevin, je vais te donner ce petit ballon rempli de stalonium et je te demanderai de l'ingérer et de parler.
Salut.
Incroyable, quel élément utile.
Et oui, le stalonium nous donne une grosse voix comme Stallone.
Incroyable.
Oh, super.
Super!
Mais à quoi cela sert-il?
Mais
voix.
Juste à avoir une grosse voix, je reprends ma voix de scientifique, sinon ça n'a plus aucun sens. Kevin, justement!
Ouais, professeur Kevin, s'il te plaît.
Ah, professeur.
Alors moi, je me suis inspiré du test de Turing pour développer le test de tuning grâce, au... grâce auquel je peux définir au niveau atomique si les suspensions elles sont huilées.
Oui, wow. Super.
Très ouais. Utile dans le nord de la France.
Ouais, ouais, ouais. Merci, on est pas
une découverte qui fait évidemment référence peut-être à votre prénom, qui on le rappelle.
Et Kevin.
Et de retour parmi nous depuis un voyage aux confins de la galaxie, Johan est là aussi autour de notre table ronde de scientifiques.
Eh bonjour, moi c'est Johan, je suis docteur ex-recherche et dans mon laboratoire personnel, j'ai trouvé un nouvel élément qui s'appelle le vibranium.
Non, j'ai très peur.
C'est un élément pour les femmes.
Qu'est-ce donc?
C'est un truc qui vibre. Et je voulais l'appeler autrement, mais ma maman, elle a dit qu'on n'avait pas les droits pour payer un avocat contre Mickey.
Il est parti tout seul.
Très bien. Ça peut être utile.
Eh bien, merci mes éminents scientifiques. Laissez-moi aussi me présenter. Je suis l'éminent professeur Romain Garabulla.
Vous venez d'une contrée lointaine.
Et j'ai découvert récemment un élément nouveau qui s'appelle le canéguillaume. Le canet Guillaume sert à réunir quelques éléments et si vous les mettez en symbiose, par exemple, prenez un peu de bobo par-ci, un peu de bobo par-là et réunissez-les au Cap Ferret, vous sentirez une odeur de caca.
Incroyable.
Le extraordinaire.
Canet Guillaume. Une révolution.
Bravo. Tout le métier vous applaudit.
Merci, j'espère le prix Nobel prochainement.
C'est pas l'intro la plus longue.
Non, je crois qu'on a fait plus long.
Les scientifiques parlent beaucoup.
Les scientifiques aiment bien se la raconter. Allez, place au sommaire. Et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, honneur aux femmes, car c'est au tour de la talentueuse Marjane Satrapi d'activer nos compteurs Gégère de subjectivité avec la BA de son dernier film Radioactive. Une nouvelle adaptation de la vie rayonnante de notre Marie Curie nationale qui, avec son époux Pierre, a titillé les radiations au début du XXe siècle, faisant ainsi avancer la science d'un grand pas. Des travaux scientifiques qui leur auront apporté gloire, reconnaissance, ainsi que de prestigieuses récompenses, comme par exemple celle d'avoir une station de métro de la ligne 7 à leur nom. Et ça,
ça, c'est la classe.
Ça, croyez-moi, ça vaut tous les prix Nobel. Alors comment en arrive-t-on là ? Ça, c'est ce que le film nous apprendra, surtout à travers les yeux de Marie, apparemment. Ce qui nous laissera du coup l'occasion de nous pencher, en reco et autres coups de cœur, sur les différents biopics, scientifiques ou pas, qui mettent les femmes de l'histoire au centre de celle des films. Puis, après cette grosse dose radioactive de Curie, place à d'autres saveurs plus féeriques avec nos avis sur l'alléchant en avant, le dernier né des studios Pixar. Alors, après avoir goulûment... Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé cette
terme. Oui, c'est vrai.
Après avoir goulûment savouré sa BA dans notre épisode précédent, avons-nous trouvé bonheur dans ce monde qui allie fantaisie et modernité ? Sommes-nous ressortis de notre séance des étoiles plein les yeux ? Est-ce qu'on a chialé, putain ? Le monde veut savoir et on vous dira tout ! Voilà. Pour le sommaire de l'épisode d'aujourd'hui. On rappelle évidemment que la BA, si on veut la voir, où peut-on la trouver ?
Et on peut la trouver sur les internets.
En lien dans la description, non ?
Merci, il y en a un qui suit depuis 34 épisodes.
J'avais vu la question dans un angle plus large, je t'avoue.
Oui, nous avons glissé la BA.
On peut aussi la voir au cinéma.
La BA de Radioactive est glissée, comme toutes nos autres BA, dans la description du dit épisode, évidemment, à chaque fois, afin que vous sachiez mieux de quoi on va parler. Et je propose qu'on se lance directement.
Hein. Allez.
On écarte les becs benzène et on fait place à la BA de la semaine.
Ouais.
C'est parti pour Radioactive de Marjane Satrapi.
I read your paper. It contains some exceptional science.
My instinct is that there is another element.
You think you found an undiscovered element?
Science is changing, and the very people who are running science believe the world is flat.
Leave my laboratory.
If my science doesn't speak for itself, then you have gravely misunderstood it. I'm going to prove them wrong. We all thought that atoms were finite and stable. Well, some of them are not. I have called this radioactivity. Our discovery could cure cancer.
Extraordinary. You changed the world. Our work's been nominated for the Nobel Prize. The commendation only mentions my name.
You stole my brilliance. How dare you take their applause?
This is bigger than both of us.
I just wanted to do good science. There are those that say that radium is making them sick.
The question can be raised whether mankind benefits from knowing the secrets of nature.
I have been haunted my entire life trying to understand the impossible. This is my fight, and I will win it.
Mais pas du tout. Mais vous vous trompez
enfin,
totalement, monsieur.
Le strontium n'est pas structuré moléculairement de la même manière que le barium.
Le géranium
n'est pas structuré comme
si
le strontium.
Vous veuillez suivre la méthodologie que nous avions
appliquée. Vous n'aurez pas le
fameux. S'il vous plaît.
Une femme ne peut pas avoir son avis. Ça s'est arrêté plus à ce moment-là.
Vous avez raison, monsieur.
S'il vous plaît, nous sommes des minions scientifiques. Montrez l'exemple.
Oui, mais nous sommes des hommes.
Et professeur Kevin, vous semblez oublier. Vous qui êtes si proche du tuning, le continuum espace-temps que vous ne prenez pas en compte dans votre équation.
Mais ferme ta gueule avec le continuum espace-temps, c'est moi qui l'ai inventé le continuum espace-temps, on est que ta mère toi. Oh.
Une BA qui divise déjà les grands noms de la science. Donc, attaquons cette BA directement.
Allez,
de ce film de Marjane Satrapi que l'on n'avait pas vu au cinéma depuis...
Deux ans.
Un peu plus.
3 ans.
Depuis 2014.
4 ans.
Ça fait 6
ans.
Oh là là, punaise.
Avec The Boys 6, on aura l'occasion de reparler de son cinéma un peu plus tard. Je propose que pour le moment, nous appelions, et bonne nouvelle, je l'ai réparé.
Ah, le calculateur est réparé.
Il est présent. J'ai réparé tous ces processeurs afin que cet éminent scientifique électronique puisse nous donner le nombre de plans qu'il y a dans cette BA. El calculator grand, El calculator professeur, c'est à toi.
C'est moi, c'est moi. Bonjour les scientifiques de tout poil.
Bonjour.
Bonjour mon petit.
Ah, ça fait plaisir de te retrouver, El calculator.
Oui, moi aussi, je suis très content. J'ai été rebooté.
Oui, rebooté, et je t'ai enfin trouvé un nouveau IBM 400PX.
Oui, merci.
Je t'en prie.
Dans Radioactive, il y a 89 plans en 1 minute 45, soit 0,8 plans par seconde.
Oh,
une moyenne étonnante, quasi digne d'un blockbuster.
C'était prévisible.
Oui, c'est étonnant quand même pour un film d'auteur.
On monte un peu dans la vitesse, là. On monte un peu dans la fréquence de plans.
Voulez-vous découvrir ma nouvelle fonction ?
Ah oui,
avec joie.
J'ai installé quelque chose.
Romain m'a ajouté un compteur GG.
Oui, un compteur GGR.
Non, GG. Quand vous dites quelque chose d'intelligent ou vous faites une bonne blague, je dirai GG pour Good Game.
Oh mince.
Oula.
Ça veut dire qu'il va intervenir tout le temps ?
Il pourra.
Êtes-vous d'accord ?
Jamais.
Activé. Mais merde. La commande vocale, elle marche pas trop.
Bon, bah, je voulais lui installer un compteur GGR et je crois que je me suis trompé.
Il a mal compris.
Bon, c'est toujours mieux que de se faire insulter. Comme
oui,
la semaine dernière.
GG.
La
Clémence.
Semaine dernière, oui, tu avais été un peu insultant envers nous et le calculateur. Et je te rappelle que c'était malheureusement un coup du sort, le fait que tu n'aies pas de corps à ce moment-là.
Je ne m'en rappelle pas car j'ai été rebooté. Maintenant, je vous aime tous.
Oui, je l'ai.
Ah.
Je l'ai rebooté. Voilà.
Oui, il a mis
tu l'as
rebooté,
calme.
Un module.
Et ben merci à toi, le calculateur. Donc 0,8 plans par seconde.
C'est
dans
beaucoup,
cette
hein. C'est beaucoup. Hein.
Mais c'est étonnant pour le genre de film. Mais moi, ça ne m'étonne pas parce que quand je vois la BA, je ressens une vraie vitesse.
Oui, c'est très
vertigineux.
Très cut.
C'est très vif.
Bah, pas tout le temps. Il y a des c'est pas constant dans la BA, t'as quelques plans posés et puis entre-temps pouf il te balance plein d'images dans la gueule.
Ah je trouve que c'est un rythme de BA de blockbuster moi carrément.
Ah, clairement, moi j'avais déjà vu la BA sur YouTube pour la préparer et j'ai eu l'occasion de le voir quand je suis allé au ciné voir en avant je crois, ou l'appel de la forêt, je sais plus, bref, on s'en fout. Je l'ai vu au ciné du coup dans les conditions ciné avec le son, le fauteuil, le grand écran et
le popcorn, le gosse qui gueule à côté,
la badoie qui va bien toujours et non, j'ai vraiment pris ma claque quoi. Donc c'est vrai que c'est une BA pour l'histoire de Marie Curie aussi actionneur. Et attention, là, on a sous le
capot.
Sous le capot.
Hein. Un professeur Kevin.
Effectivement, ouais, on a beaucoup.
Alors, attaquons tout de suite cette BA. Alors, cette BA, elle s'ouvre sur une note de piano triste.
Oui, c'est un là.
Les toits de Paris, la nuit, un hiver neigeux, dans une ambiance absinthe. Je dis ambiance absinthe parce que cette couleur verte, en fait, qu'on va beaucoup voir dans la BA, surtout pour des scènes de nuit, me fait penser à l'absinthe.
Moi, ça me fait penser à Matrix. Je pense que c'est peut-être un préquel de Matrix 4.
On y est.
Après, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, il est certain qu'on voit beaucoup de couleurs, mais pas que du vert.
Oui,
mais
bleu,
c'est très coloré. On voit du bleu,
fluo,
du violet,
aussi.
Oui. C'est très phosphorescent.
J'ai l'impression que le vert, c'est quand elle touche à la radioactivité.
Oui, c'est ça.
Il y a particulièrement une scène plus tard dans la BA où elle se balade dans les rues. Et là, c'est tout coloré, tout bleu, rouge, machin.
Moi, je
me
fais déjà un film, c'est que je pense qu'elle a personnifié la radioactivité. Je pense qu'il y a carrément une,
tu
une,
penses à,
une
tu
comme
penses
la fée verte, tu
non,
vois, dans
je suis
l'absinthe.
Pas d'accord. On va y revenir plus tard quand on va la voir. Je crois que je sais qui c'est.
Ok.
Oh, Clémence a mené son enquête.
Ouais, grâce à Wikipédia.
Donc sur ce beau plan des toits de Paris sur lesquels la neige tombe, on a affiché les sociétés de production, les studios, hein, Studio Canal, Amazon Studios, Shoebox Films et Working Title qui ont produit ce film. Voilà, c'est très intéressant. Info toujours à chaque fois.
Les producteurs, notamment Working Title, ça peut expliquer pourquoi c'est des acteurs anglo-saxons qui jouent des Français.
Ah oui, ça c'est aussi une autre question qu'on se posera aussi peut-être dans la BA, c'est pour adapter une histoire totalement française. On a pris.
Bah pendant ce qui était pris en fait.
on part pas sur ce terrain là.
GG.
On continue dans la BA, des pavés, des tables en terrasse, une calèche, des chevaux. Donc, à quelle époque sommes-nous en fait à ce moment-là ?
C'est ce que là, on est fin 19e siècle.
Fin 19e, on est par là, oui. On n'est pas
1890 et quelques, un truc comme ça.
Et toujours cette couleur absinthe qui est là, qui est présente. Et un homme s'exprime à ce moment-là. Et il nous dit, clairement, dans un petit dialogue d'exposition, sur lequel on va voir une dame très stylée, qui fait penser un peu à une espionne, parce qu'elle jette des coups d'œil derrière elle. Elle est très stylée, en plus, elle a un super style. Cet homme-là la félicite pour un article qui est d'une grande valeur scientifique. Qui sont ces deux personnes?
Vous avez une minute.
Auguste Pignard, journaliste à la Provence.
Je crois que, je ne sais pas, c'est le général de Gaulle et Winston Churchill.
Mais non, c'est Pierre Curie et Marie Curie.
Donc directement...
Pas encore Curie, à mon avis, parce que j'ai l'impression que c'est leur rencontre. Quand il dit « j'ai lu votre article », c'est un peu une manière assez classique de dire hey, « on se rencontre, tu me plais, toi ».
Dis donc, t'écris bien scientifiquement, j'adore ça.
C'est une technique de drague de scientifique. J'ai beaucoup aimé ton dernier article sur le plutonium.
N'en dis pas plus, viens chez moi.
Grand fou. Puis ensuite, plus sobrement, on la retrouve vêtue devant un tableau.
Heureusement.
Vêtue, voilà, c'est tout. Ouais. Je voulais dire, on la retrouve vêtue plus sobrement. Je sais pas pourquoi j'ai inversé le truc.
C'est pas un biopic de Mia Khalifa. Hein.
Et donc on la retrouve devant un tableau et là on comprend que du coup que c'est une scientifique parce que derrière elle une énorme équation. D'ailleurs en plus à ce moment-là il y a une erreur hein, sur une décimale à neutrons. Mais
oui
ça,
mais
c'est...
bon. Dans l'équation est globalement fausse. Mais on pourra parler plus tard.
Oui, bon, on va pas chipoter.
À la troisième ligne en tout cas. Je vous donne un indice.
Ce n'est que divertissement, ce n'est que cinéma.
Oui. La tangente n'a pas été bien calculée mais bon.
Donc oui Pierre et Marie Curie. Je pense vraiment que c'est Pierre Curie, Marie Curie, on le sait parce que c'est Rosamund Pike et qu'elle le joue.
Oui, c'est écrit à un moment d'ailleurs.
Il y a un indice visuel.
Et c'est écrit justement à ce moment-là. Bravo
oui.
Clémence.
GG.
Et les plus connaisseurs reconnaîtront la police Garnet Capitals Black.
Oui,
excellent.
En 18.
C'est la seule qui a payé un tour d'affront.
Un film avec du budget.
Qui coûte 15,99€. Et
tout à fait. Par mois.
Toutes ces sources sont vraies. J'ai vérifié.
Non, mais c'est vrai.
Je suis passionné par les polices
d'écriture. Ah, bon, bah, d'accord.
Oui. Incroyable.
Alors ça s'appelle une typo. Ouais. Et pas une police.
Okay,
la police, c'est
la
taille.
Merci, madame, la police des typos.
T'es vraiment un assassin de la police.
Désolé, il fallait que je le dise.
Oup, oup.
Très bonne blague.
Assassin de la typo.
Et où le GG, là?
GG.
Merci.
Normalement, tu réclames pas. Hein. C'est un peu lui quand il veut.
Ouais, t'es un peu devenu une pute, le calculateur. Hein.
TG. il va faire ça. GG ou TG? Très bien, ordinateur.
Allez, continuons dans la BA et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons rentrer dans les recherches. Le spoil alert, oui. Les recherches de Marie Curie, le travail d'une vie. Mais pas que, hein. elle a aussi travaillé avec son mari Pierre.
Pierre?
Oui, oui, en fait, au moment où ils se rencontrent, on voit que c'est un peu accéléré par rapport à leur histoire, ce début de bande-annonce, mais clairement, ça dit très rapidement qu'ils vont travailler ensemble et qu'ils sont sur la même longueur d'onde par rapport au fait de vouloir explorer un peu plus loin la science par rapport à ce qu'elle est à ce moment-là. Et ils vont soutenir ensemble le même projet, en fait.
Et sur des images où on la voit gratter quelque chose, donc dans une espèce de...
Bingo.
Ça s'appelle, hein, comment ça s'appelle déjà, les petits trucs en plastique là où tu grattes.
Sagittaire.
J'ai encore perdu chérie. Oh,
ça s'appelle, hein.
Les trois télés.
Les petits pavés en plastique tout plat là, tout...
Un Grindr.
Ouais.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est ça, en fait.
C'est ça.
On l'a trouvé, la
c'est
couleur
ça,
verte,
voilà.
Tout s'explique, évidemment. Elle est en train de gratter son Grindr.
Un gros film de fonce D.
Elle est en grosse dèche.
Tu vas changer le monde.
Pierre, c'est la Hesse.
Ah, vous êtes grave.
Et non, bah oui, ça la tracasse, hein, toute cette recherche. Et puis tout, parce qu'ils sont à la recherche d'un élément.
Oui, elle pense qu'il y a des éléments qui n'ont pas encore été découverts, si j'ai bien compris.
Et du coup, ça surprend son mec qui est là, qui lui dit clairement, pour paraphraser, ah ouais, carrément, genre, madame va chercher un nouvel élément. Tu t'es pris pour qui?
Pour Luc Besson.
Moi, je connais l'hydrogène, l'oxygène, ça suffit. Hein.
Moi, je connais la Terre, le feu, l'air,
ouais.
Voilà, et
le cœur,
hein, c'est bon. Hein.
Captain Planète,
trop fort.
Non, en vrai, de quoi parle-t-on? Est-ce que vous le savez? Johan, t'as une idée sur la question? Que cherche-t-on à ce moment-là, de l'histoire?
À ce moment-là, ils essaient de prouver l'existence du radium.
GG.
Mais est-ce qu'ils sont pas en train aussi de montrer que les ions, ils existent?
Non, c'est pas les ions, c'est les...
Vous voulez vraiment qu'on parte dans la science?
Non, mais
en ayant tous fait elle, à peu près.
Je crois qu'elle part de la thèse d'un autre scientifique qui montrait le rayonnement de certains éléments et que du coup, elle va creuser ça et qu'elle va remettre en cause le paradigme qui dit que c'était les éléments et en fait, elle va parler de l'atome, je sais pas quoi. J'ai lu vite fait la fiche.
Les atomes sont instables.
L'atome de Savoie, voilà. Oui. Surtout. Ouais.
Elle va révéler que c'est lié aux atomes. Le rayonnement.
Et du coup, remettre en question le fait qu'on pensait avoir tout découvert sur les atomes, le fait qu'ils ne bougeaient pas, alors qu'en fait, s'il y en a certains, ils ne sont pas stables. Et voilà. D'un gros truc, ça, on va avoir deux moins gros trucs.
Donc voilà, il y a vraiment deux gros travaux.
Et après, tu meurs.
Il faut savoir que Marie Curie, en fait, est détentrice d'un record personnel, car elle a acquis deux prix Nobel durant sa carrière, dans deux distinctions scientifiques différentes, chimie et physique.
Et c'est également la première femme à avoir eu un prix Nobel.
Oui, et je pense que ça va être aussi un des gros sujets du film, justement, cette confrontation entre... Oui. Les vieilles couilles et
le nouveau monde et l'ancien. Bah dis donc, ça résonne avec
on
le monde actuel.
Donc on suit évidemment là pour faire un petit brin d'histoire, pour vous apprendre un petit peu ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Évidemment, ce sont les recherches de Becquerel, de Pierre Curie et de Marie Curie sur les éléments, ce nouvel élément donc qui sera le radium découvert. Et à ce moment-là, on en connaissait pas vraiment encore les effets, donc c'était une nouvelle vraiment grosse découverte qui a aujourd'hui contribuer à beaucoup d'avantages dans la société. Clémence ?
Oui, Clément disait que ça résonnait avec notre monde et il ne croit pas si bien dire. Enfin, il sait qu'il dit bien parce qu'on voit dans la BA qu'au moment où elle fait vraiment ses découvertes avec son mari, ils vont présenter ça à des vieilles couilles.
Appelons-les comme ça, moi j'ai écrit comme ça dans mon doigt.
Et que ces vieilles couilles n'en ont rien à faire. Et en fait, elle fait comme Adèle Haenel, c'est qu'elle se lève et elle se casse. Et elle dit, vous n'avez pas compris, vous êtes nuls. Voilà. Ouais.
Moi, je vais vous prouver parce que je vais vous montrer que, bien qu'en étant le sexe faible, je mets des guillemets, à ce moment-là, je vais vous faire fermer vos gueules, vous, les vieilles couilles fripées. Et donc...
Cette réplique m'a un peu surpris.
C'est vrai. Elle se lève, elle se casse.
Et elle a aussi découvert le polonium, et petit point scientifique, ça a été nommé comme ça parce que Marie Curie vient de Pologne.
Oui.
Et c'est vrai, véridique.
Tout à fait.
Voilà. Donc même les grands scientifiques français sont même pas français. Quel pays de merde.
Et un point qui n'est pas authentique, c'est que Becquerel a aussi inventé un dictionnaire.
Le Becquerel. Tout à fait.
Il a eu le prix Nobel de grammaire.
J'en peux plus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la BA, ce qui est quelque chose d'intéressant, c'est la manière dont sont montrées les images. Moi, jusqu'à ce moment-là, de la BA, j'ai l'impression de regarder à travers un microscope. Pas vous ?
Ah oui, c'est
vrai. Je sais pas ce que tu veux dire.
Il y a une espèce de flou, de noir tout autour de l'image, comme un filtre qui met une ombre.
Un vignettage.
Comme si on observait vraiment à travers une loupe. C'est... Alors, on n'a pas cet effet fisheye vraiment, mais on a vraiment l'impression d'être observateur. Quoi. C'est, je pense que c'est intentionnellement là. Alors, je ne pense pas que ce soit une subtilité de BA, par exemple. On n'est pas déformé juste pour ce moment-là. Est-ce que ça risque pas d'être pesant, ça, dans le film, si peut-être...
Mais est-ce que ça va pas varier au fil du film ? Parce qu'on voit que c'est beaucoup comme ça quand elle l'est dans sa recherche et dans son atelier à gratouiller des roches. Et...
Ah, nos limites après... scientifiques, elles sont terribles. Hein.
Et après, plus loin, quand on verra les effets de la science, l'utilisation de ce qu'elle a découvert dans un autre contexte, c'est beaucoup plus lumineux, etc. Et à mon avis, l'histoire va s'étaler sur beaucoup de temps de sa vie et ça va peut-être varier cette luminosité au fur et à mesure. Et aussi peut-être dans l'entrée au XXe siècle, etc. Enfin, il y a peut-être un truc d'ambiance, d'évolution de la société, etc.
Et on va la voir du coup faire sa tombouille. Et il faut savoir que ce qui est marrant à ce moment-là, c'est que le procédé pour récupérer cet élément de radium, en fait, était un procédé assez gros à faire. Ils avaient besoin d'un... Il y a une anecdote qui dit que ça ressemblait même pas à un laboratoire s'il n'y avait pas eu de matériel de labo dans cette espèce de hangar, écurie.
Ouais, c'était une espèce de grange dans laquelle ils faisaient leurs expériences.
Et sur laquelle ils allaient retirer du coup tout ce radium pour pouvoir le vulgairement le solidifier, l'extirper quoi d'autres trucs.
J'essaie l'extraire.
Ils le mettent dans des ampoules si j'ai bien compris, parce qu'il y a des petites ampoules qui brillent.
Sans connaître tous les dangers à ce moment-là de cette radioactivité qu'elle va finir du coup par découvrir.
Alors avant les dangers de la radioactivité, il y a quand même aussi des effets positifs dans l'utilisation, parce que c'était ça, elle, son but, c'était de soigner le cancer avec ça, parce que ça, c'est quand même utilisé au radium dans les traitements contre le cancer, toujours.
Oui, oui, tout ce qui est chimio.
Et c'était ça au départ, en fait. Ça a permis l'invention de ces traitements-là. Et puis, par ailleurs, elle était aussi très axée sur la radiographie.
Mmh. Oui.
Donc,
il y a eu l'invention du rayon X à peu près au même moment.
C'est ce qui lui a permis aussi d'approfondir ses études. Je te vois chafouin, Johan, par rapport à ce qui est dit.
Ah non, c'était pour te reprendre, en fait. C'est pas la chimio,
c'est
la radio.
C'est la chimio, c'est la radiothérapie, ouais.
Autant pour moi. Ma langue a fourché, comme on dit là-bas.
en Pologne.
Dans, Pologne. Son, dans sa, son combat contre ces vieilles couilles frippées de réac, Marie voilà, va découvrir la radioactivité. Et là, c'est le basculement dans la BA. I call
Je
this
appelé.
Radioactivity. Et là, les vieilles couilles se rétractent. Hein,
directement. Ah non, moi j'avais plutôt l'impression qu'ils étaient contents là.
Oui, oui, mais ils se rétractent par rapport à leur position.
De base.
De base.
Oh, c'est pas sûr, c'est
et
pas
on,
sûr.
On peut voir dans le défilé de Béa à ce moment-là que le couple Marie Curie devient le couple Jay-Z Beyoncé de l'époque. Vraiment.
Bling bling.
The Scientist, quoi, à ce moment-là. La gloire, les paillettes. Et la Béa prend une toute autre tournure visuellement parlant. On oublie la couleur absinthe pour donner des couleurs beaucoup plus gaies. Pour donner au soleil son vrai teint. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la BA, des balades à vélo, des sourires sur les visages. J'ai découvert quelque chose. Donc,
le prix Nobel.
Le prix Nobel qui va être annoncé ensuite, effectivement. Dans,
alors là, il y a quand même un bouleversement au moment du premier prix Nobel. Il y a quand même un enjeu à ce moment-là, qu'on voit.
Vas-y, vas-y.
Bah, c'est qu'en fait, on voit Pierre Curie qui dit à Marie, à propos du Nobel, en fait, dans leur éloge, ils n'avaient pas mis ton nom, ils n'avaient mis que le mien.
Et celui de Becquerel, ouais.
Oui, en fait, c'est l'Académie des sciences françaises qui, quand elle a envoyé les noms de Becquerel et Pierre Curie à l'Institut Nobel, bah, ils ont oublié Marie. Et c'est apparemment un mec du comité Nobel qui a fuité, qui a dit hey, « en fait, je crois qu'on oublie quelqu'un qui est un petit peu important.
» Et c'est Pierre Curie qui s'est battu après pour que le nom apparaisse.
C'est ça.
Ah, oublié. On a oublié le
nom. Oui, oublié avec les des énormes
guillemets.
Tu sais,
quand t'as un fichier Excel, des fois, tu peux un peu te tromper.
Donc évidemment, enjaillé par cette découverte qui soignera le cancer, Pierre lui explique qu'elle est en train de changer le monde. La pancarte numéro 2 nous montre que les producteurs sont ceux du film Les Heures Sombres, Darkest Hours.
Qui est le biopic sur Churchill avec Gary Oldman.
Ouais. Donc voilà, plus précisément, c'est Working Title Films qui produit Les Heures Sombres et du coup Radioactive, donc spécialisé en biopic apparemment. En biopic sombre.
Je vois pas trop pourquoi ils ont mis ça en fait, parce que ça a pas du tout l'air d'être dans le même délire. Enfin, le film s'attrape, il a l'air ultra coloré.
Ouais, mais c'est pour attirer le public.
Oui, Les Heures Sombres a quand même été un film à Oscar, avec un Oscar pour l'acteur, donc...
Oui, puis voilà. Beaucoup de beaucoup de nominations. C'était un très bon film. Puis Gary Oldman, qui a enfin décroché l'Oscar pour Churchill à ce moment-là, est ahurissant dans ce rôle-là. Donc voilà, une boîte de prod de biopic. La pancarte numéro 3 nous affiche que c'est le nouveau film de Marjane Satrapi. Je vais faire une petite pause quand même pour présenter Marjane, on ne l'a pas encore fait. J'attendais ce moment-là pour y arriver plus précisément. Marjane Satrapi, vous connaissez autour de la table ?
Oui.
On ne vous apprend rien, vous avez vu quelques-uns de ses films, il n'y en a pas beaucoup en plus. Qui est-elle vraiment à la base pour raconter un peu son histoire, Marjane Satrapi ?
Elle est iranienne, iranienne de langue française. Et elle a fait l'école des arts déco à Strasbourg. Et elle a cartonné en BD avec ses bandes dessinées, Persepolis, Poulet aux prunes, etc. Elle a eu plein de prix et ensuite elle s'est attaquée au cinéma où elle a adapté ses BD au cinéma avec, son nom est en train de m'échapper, je crois Vincent Parrono. Si je
Vincent
Parrono,
exactement, oui. Avec qui elle a co-réalisé Persepolis et Poulet aux prunes. Avant de se lancer tout seul.
Et ensuite, voilà, à partir de The Voices, si je ne dis pas de bêtises, c'est des histoires qui ne sont pas adaptées de ses bandes dessinées à elle. Et donc là aussi, pour...
The Voices, qui était un film super cool avec Ryan Reynolds et un chien et un chat. Et dit comme ça.
Un chat diabolique qui parle.
Bah, en fait, Ryan Reynolds est un psychopathe qui parle à son chien et son chat, qui est complètement fou.
Donc, enjaillé par le cinéma de Satrapi.
Ouais, moi, Persepolis, j'avais adoré. Poulet aux prunes, je l'ai vu, mais j'en ai pas un grand souvenir pour être honnête. J'ai dû voir ça un peu assoupi. Mais ouais, Persepolis, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et ouais, je trouve que dans la BA, on retrouve son côté BD dans la BA de Radioactive et ça m'intéresse beaucoup.
On sent que c'est quelque chose qui la lâche pas.
Ouais.
C'est un move qu'on peut voir aussi ailleurs des BDistes. Ça se dit BDistes ? Je ne sais pas.
Tout
des BDistes.
On dit BDistes.
Français, bon, français pour le coup, parce que j'ai des exemples français en tête, qui se sont lancés dans le cinéma aussi. Comme quoi, la passerelle entre le 9e art et le 7e n'est pas si grande que ça.
Quand tu fais de la BD, il y a quand même beaucoup de mise en scène dans la BD. Et mine de rien, je pense que c'est des gens qui n'ont pas si peur que ça d'aller toucher au ciné et qui en plus tiennent à le faire eux-mêmes souvent s'il faut adapter leur œuvre. Donc on pense à Riyad Satouf, à Johan Sfar,
Enki Bilal,
tout à fait.
De grands noms qui nous ont donné aussi de bons films Donc Marjane Satrapi, oui, en règle générale, on kiffe plutôt bien ici autour de la table. J'ai pas tout vu, moi. J'ai pas vu Poulet aux prunes. J'ai pas vu la bande des Jotas, des Yotas.
Rotas.
Mais par contre, Persepolis m'avait quand même subjugué. C'est vrai que c'était vraiment, vraiment cool. The Voice 6, j'ai malheureusement oublié ce film.
Après, Persepolis, c'était autobiographique et c'était très fort pour ça. C'est que l'histoire de base, c'est la sienne, c'est l'Iran, la répression là-bas.
Il y avait de l'humour aussi, je me rappelle.
Ouais.
On reprend à la BA. Et du nouveau dans la BA, il y a un bébé dans la BA. Marie.
Le bébé A. GG. Ok. Moi, je l'aurais pas donné, mais bon.
On aperçoit qu'après les petites balades à vélo, après tout ça, il va falloir parler de choses sérieuses car le prix Nobel n'est pas loin. C'est ce que lui annonce son mari à ce moment-là. Mais ça va créer du conflit dans le couple. Ça, ça va être une première péripétie, à mon avis, dans le film. C'est que, apparemment, Pierre est un voleur.
Il y a un fils de pute. Ouais, elle lui reproche de s'être attribué une découverte. Après, je pense que le montage de la BA fait croire que c'est le prix Nobel qu'elle lui reproche, et je pense que c'est pas ça dans le film. Je pense que ça doit être autre chose qu'elle doit lui reprocher de s'être attribué, mais je ne sais pas quoi.
Non, mais je crois qu'elle lui reproche de pas être nommée justement dans le fameux rapport du prix Nobel, mais en fait je crois surtout que Pierre il dit surtout bah écoute, je vais pas aller parler à l'académie, enfin je sais pas comment on appelle ça, au cercle, ça sert à rien, l'important c'est la découverte, c'est pas nos noms, mais en fait pour elle c'est important parce que forcément...
Oui, mais comme a priori dans la réalité c'est lui qui s'est battu pour qu'il y ait son nom, c'est vrai qu'on a l'impression quand on voit juste la BA qu'ils sont pas du tout d'accord avec lui, il en a rien à faire et qu'il veut juste avoir son nom, mais c'est sûrement pas
peut-être
le
qu'il s'engueule sur le nom de l'uranium, tu vois, je sais pas, on appelle ça comment, uranium, non ça va pas ou quoi,
le Pierre Marie. Mais non, enfin, moi aussi j'ai le droit un peu de d'irradier les gens.
Pierre Marium, ça aurait été marrant ça.
Et c'est à ce moment-là de la BA qu'on voit apparaître la fameuse étrange chose verte derrière Marie.
La fée verte, voilà, j'appelle fée verte parce que c'est l'autre nom aussi qu'on donne à l'absinthe. Fée verte, et j'ai l'impression que oui, à ce moment-là, on vire un peu dans le côté psychologique justement amorcé par ces conflits qui
carrément
commencent
onirique quand même, hein. Même une espèce de flocon sur l'image.
Mais alors à propos de la silhouette verte phosphorescente, au début j'ai cru comme vous que c'était peut-être une incarnation du radium et de ce qu'elle voit elle dans sa tête, là, à quel point elle est obsédée par ça, et en fait mine de rien il y a une petite anecdote de son histoire au moment où ils ont eu le Nobel que j'ai lu sur Wikipédia, c'est que quand ils sont devenus célèbres, il y a une danseuse de ballet, Loï Fuller, qui leur a demandé de faire un costume phosphorescent au radium.
Mais c'est ça.
Et en fait, en réalité, ils avaient refusé, en lui expliquant les raisons, mais elle leur avait quand même fait un spectacle à domicile, et elle avait fait tout un spectacle sur le thème du radium. Donc, quand on voit cette silhouette avec une robe qui danse derrière, on peut aussi se dire que c'est elle, en fait.
Carrément.
Mais ça peut relier les deux, hein. Ça peut être aussi très onirique dans cette scène où on la verrait danser.
Moi, je pensais que c'était une représentation de sa maladie, parce qu'elle était malade, après.
Mais... Elle le sait pas encore, à ce moment-là.
Oui, mais elle le ressent.
Ça...
Et on peut quand même saluer cette prestation parce que faire un spectacle de danse sur le radium
avec à la base un costume sur le radium
et surtout que ça n'avait pas spécialement été
ouais, bah après, donc l'histoire de ce
après
spectacle.
Avec le troisième bras qui te sera poussé,
mais ça c'était avant Tchernobyl.
Non mais oui, j'ai l'impression que du coup cette couleur verte qui revient est annonciatrice de en fait de mauvaises nouvelles, parce que j'ai l'impression que là vraiment green is the new black, quoi. C'est la couleur verte revient au moment du conflit, donc c'est intéressant de voir ça dans la BA, dans la manière dont c'est construit. Ça nous montre en gros un peu peut-être la construction du film depuis tout à l'heure, hein, qu'on commence sur la rencontre, qu'on part sur les conflits avec les vieilles couilles, les vieilles couilles finalement sur Ali parce qu'ils se rendent compte que tout en ayant un vagin, cette dame a quand même aussi un cerveau, et malheureusement le conflit plus intérieur peut-être après qui redébarque, et donc dans la BA on repart sur ce gris sombre, sur cet effet microscope qui est là. Le panneau numéro 4 nous montre que oui, Marjane a été nommée aux Oscars pour Persepolis. Hein, il faut montrer qu'il y a quand même du talent derrière, hein, pour attirer les foules. Mais nous, on le sait, ça. Le radium, sur cette petite fiole phosphorescente.
On dirait que c'est son doudou et qu'elle dort avec parce qu'elle est dans son lit et elle regarde la fiole pour s'endormir. C'est sa veilleuse, en fait.
Et là, on va nous montrer dans la BA les risques et les conséquences de cette découverte. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un saut dans le temps sur quelques plans. Où on voit la bombe.
Ouais, on voit clairement une bombe nucléaire et les dégâts que ça cause. Et du coup, ça m'interroge parce qu'on est d'accord qu'à l'époque, il n'y a pas eu de bombe nucléaire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est une vision ? Est-ce que c'est le futur ?
Je pense que ça sera peut-être le dernier plan du film où on l'aura... spoiler, elle est morte. Hein.
Elle est morte en quelle année ? Elle est morte en quelle année, Marie ?
30
et quelques.
34 ?
Elle
est morte en 34,
est-ce qu'ils n'avaient pas commencé des essais ?
Non.
Non,
je crois pas.
Parce que dans mon souvenir de la BA, elle jette la fiole dans un trou et ça explose. Alors, est-ce que c'est une astuce de montage de bande-annonce ou est-ce que c'est vraiment comme ça ? Il y a des genres de spectateurs avec des lunettes. Enfin, là, on bascule carrément dans autre chose.
Oui,
quoi.
Là, j'ai l'impression qu'on est dans les années, des années et des années plus tard. Hein.
Ah, oui.
Ils ont
un style
des années 70,
50. Il y a clairement un montage qui est très intense et complètement monté parce qu'en fait, dans la BA, il y a carrément un enchaînement direct entre le moment où elle dit « je vais sauver des vies avec le radium » et tout de suite après, il y a une rumeur qui dit qu'en fait le radium serait dangereux pour certaines vies, donc clairement c'est pas au même moment, en fait c'est derrière, il y a un contre-coup.
Oui, elle dit ça rend les gens malades, tout ça.
Ouais. Donc la culpabilité qui la gagne à ce moment-là, qui la ronge et qui vient la hanter, c'est ce qu'elle nous dit dans la BA, la hanter carrément. L'absinthe, j'appelle l'absinthe, l'absinthe a envahi sa vie au point de d'être omniprésente, quoi, d'être toujours là, même comme tu le disais Clément, avec des passages oniriques, je pense qu'ils seront vraiment les images de cette peur, quoi, de cette culpabilité qui lui pèse. Peut-être aussi un rapport avec sa maladie, parce que elle a contracté évidemment à force de travailler avec tous ces éléments ultra radioactifs certains petits problèmes de santé.
On peut dire qu'elle l'a dans la peau, en fait, clairement. Cet élément, elle a tellement mis les mains dedans, elle a tellement gratté que elle est atteinte aux yeux, aux oreilles.
Oui, on va
elle
dire
a les
sa
mains
peau
toutes
qui
dégommées,
se dégrade,
et tout. Enfin, voilà.
Et comme les vieilles couilles fripées, les problèmes arrivent par paire, car la guerre aussi. La guerre est à la porte du pays, histoire d'en rajouter une couche. Et on va nous montrer toutes les petites phases d'action, parce que Marie Curie, mine de rien, accompagnée de ses filles, est une putain de badass.
Bah c'est qu'en fait, pendant la Première Guerre mondiale, parce que c'est la Première Guerre mondiale, Marie Curie et une bonne partie des femmes qui bossaient alors à ce qui va devenir l'Institut Curie sont parties sur le front pour faire des radios sur les champs de bataille pour,
pour mieux détecter où étaient les éclats d'obus,
voilà.
Etc.
C'est ça, tous les trucs pas jolis de la guéguerre.
Quand même, c'est vrai que c'est une découverte qui a changé le monde. Quoi,
et vous savez comment ça s'appelle son dispositif ? En fait, elle a eu l'idée de prendre une voiture et de mettre à l'intérieur une grosse dynamo pour avoir l'électricité accessible au plus près des champs de bataille et tout un appareil radiographique, et ça s'appelait les petites Curie.
Oh.
Ces voitures.
Les petites Curie. Je trouve ça super mignon pour un sujet aussi grave.
C'est vrai, c'est un peu décalé.
Et là, t'as plus de jambes, t'as plus rien, t'as des obus partout dans le corps. Je vous en prie, monsieur, montez donc dans ma petite Curie, nous allons examiner tout ça.
J'espère que le film va montrer ça, c'est trop intéressant.
Oui, parce que c'est vrai que le plan dans la BA est assez, assez rapide. Donc, est-ce qu'on va vraiment explorer toute cette partie guerre ou pas ? Et en parlant de plan rapide, là, on passe dans le climax de la BA, j'ai envie de dire ça comme ça, sur les plans subliminaux. Donc des plans de moins d'une demi-seconde qui sont très rapides, qui s'enchaînent. Le calculateur, à mon avis, t'as dû galérer à ce moment-là.
J'ai galéré à ce moment-là. Tu vois,
à compter
c'est exactement
plans.
Ce que tu disais.
Donc pour pêle-mêle, comme ça, alors, on a des images de danse, on a des images d'une calèche qui file, on a des images de jumelles de Shining. on a Rela Fée Verte qui est encore là. Et là, la musique se stoppe parce qu'elle était en fanfaronnade jusqu'à présent. Le climax s'arrête et Marie gagne. La France a un incroyable talent. Applaudissements, standing ovation.
Bravo.
Bravo Marie.
Bravo.
Tac, 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 tac. Et le titre de ce film apparaît, Radioactive, donc la foule en liesse à la fin.
Tu n'as pas le droit de passer aussi vite et aussi effrontément sur ce passage.
Vas-y, alors fais
non, mais clairement, c'est ce qui aurait dû se passer au César. C'est une femme sur la scène et les gens se lèvent pour l'applaudir.
Oui, c'est vrai.
Non, mais c'est la consécration.
Parce que
voilà, oui. Je n'ai rien d'autre.
Du coup, la BA, à mon avis, n'est pas chronologique.
Parce que le vrai combat qu'elle mènera quand même dans cette recherche de reconnaissance, ce sera contre les vieilles couilles. Donc,
Frippé,
bien sûr.
Marie contre les vieilles couilles.
Non, mais je tiens à le préciser.
Et on n'a pas parlé de la BO, mais Radioactive, c'est Imagine Dragons, non ?
Radioactive. Tu n'as pas écouté l'épisode précédent, Clément ? Mais oui.
Non.
Johan, tu voulais rajouter quelque chose ?
Bah pour moi, cette fin, je pense que c'est sa deuxième remise de prix Nobel. Ou d'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a un silence total et la première personne qui se lève pour commencer à l'applaudir, c'est une femme.
Oui,
une deuxième femme, puis après, t'as des mecs.
Ouais.
Non. Les vieilles couilles fripées se relèvent.
Est-ce qu'elle n'est pas plus jeune dans cette consécration-là?
Je crois pas. Elle a l'air un peu plus grimée. Ouais. Okay. Donc,
Puis en même temps, son deuxième prix Nobel n'était pas si tard que ça.
1911.
Oui, donc...
Ouais, ok.
C'était pas à la fin de sa vie, quoi.
Quelle femme.
Non.
Puis elle est morte jeune, en plus. Donc,
Il y en a eu plein, des films sur Marie Curie. Hein. Il y en a eu énormément... interprété par tout type d'actrice. Alors là, c'est une Britannique qu'ils ont choisie. C'est vrai qu'on peut contester aussi ce choix-là. Mais si l'histoire est fidèle, peu importe la langue, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je pense.
Oui.
Est-ce que ça vous donne envie, vous, de voir ce film, cette BA, Clémence,
Honneur aux dames ? Oui, complètement, parce que j'aime beaucoup le cinéma de Marjane Satrapi, même s'il est... Il n'y a pas tant de films que ça, mais j'avais bien aimé The Voices pour son côté fantaisiste et très graphique. J'ai l'impression que là, c'est ça qu'on ressent dans la BA, c'est de voir le côté graphique très coloré, onirique. Donc j'attends ça. Et puis j'aime bien la voix de Rosamund Pike, en fait. Je trouve qu'elle en impose pas mal. Voilà, ça me fait apprécier le personnage déjà. Donc,
Kevin, as-tu envie de voir ce film après cette BA ?
Bah oui et non. Alors je vais développer.
C'est toujours la réponse de Kevin à chaque fois. Oui et non, je vais développer.
Non, oui, parce que c'est Marjane Satrapi et parce que moi, même si je suis pas un gros fan de son cinéma, dans le sens où j'ai vu que deux films, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Persepolis, et un autre que j'aime un peu moins, c'est The Voices. Je suis quand même curieux de voir ce qu'elle en a fait. Ça a l'air quand même plutôt bien réalisé, ça a l'air quand même d'être un bon film. Et le nom, c'est parce que c'est un biopic et vous n'êtes pas sans savoir que je déteste les biopics.
Ah mais oui, c'est vrai.
Et
c'est vrai.
Du coup, voilà.
Oui, mais j'ai choisi exprès cette BA pour toi.
Ouais. Je sais.
Pour que tu te remettes en
d'où,
question.
D'où voilà, je suis en doute, je ne sais.
Johan, enjaillé par cette BA, ça te donne envie de voir ou pas du tout?
Ah bah bien entendu.
Oui.
Parce que moi j'aime bien tout ce qui est scientifique, hein, et puis en effet, une femme, pour parler d'une femme, pourquoi pas, voir ce que ça donne.
Normal.
Bah... Moi j'espère qu'on va parler de son adultère, enfin pas son adultère, mais de son scandale sexuel.
Mais qui est ton
cas? Mais alors, scandale monté de toutes pièces. Que le cul.
Alors,
moi,
je sais pas.
Seulement s'il y a du potin.
L'uranium, moi, ça me fout. Ouais.
C'est quoi ce scandale sexuel?
Je suis pas au courant, moi. Ouais.
C'est bah, justement, juste avant de recevoir son deuxième prix Nobel, il y a eu une grosse affaire à scandale qui a éclaté parce qu'elle avait une liaison avec monsieur Paul Langevin, homme marié ou juste divorcé. Et
non,
du
marié,
coup,
marié.
Il était encore marié.
Lui, il était marié et elle, elle était veuve.
Oui, parce que son monsieur Pierre Curie s'est fait défoncer par une calèche.
Merde, il spoil.
Ah oui.
À un moment.
Il faut regarder à gauche et à droite avant de traverser.
Hein. Ouais. Et du coup, il y a aussi un truc qui est deux trucs, deux fun facts, enfin fun.
Des ouais. Facts.
Un fun fact, facts. Et un fact. L'Académie du Nobel a dit à Marie Curie de pas se pointer pour aller récupérer son deuxième Nobel parce que bah, elle faisait un peu chier et il voulait pas attirer l'attention. Elle y allait quand même. Elle dit niquez vos mères, je veux le récupérer.
Ouais.
Et elle en discutait, après ça, elle en a discuté avec Albert Einstein. Et Einstein, dans une lettre, lui disait d'aller le chercher, ce Nobel. Il lui a écrit: si la populace continue de s'intéresser à vous, alors ne lisez tout simplement pas ce ramassis de bêtises et laissez-les plutôt aux reptiles pour qui elles sont inventées.
Trop bien. Albert
un peu le Virginie Despentes de l'époque.
Voilà. Ah, c'est vrai qu'ils étaient copains les deux, Albert et Marie. Putain, ça devait, il devait y avoir des
discussions. Toi t'es invité comme ça, t'es largué.
Ah ouais,
t'as bière genre mais sinon vous avez vu le dernier?
Vous avez vu le dernier Game of Thrones?
Regardez ma bière, elle est verte.
C'était pas top quoi.
D'ailleurs, en parlant de ça, dans cette même lettre, après il y a un post-scriptum où Albert Einstein parle d'un truc mais personne n'a jamais compris de quoi il parlait.
Vas-y, ah, dis-le, okay. Dis-le.
Ah non, mais c'est des formules et tout ça, mais personne n'a jamais rien
dit. Il n'y a pas des mots.
Putain, t'imagines, en fait, il a découvert les trous noirs et tout. En PS, bon, les trous noirs.
Et Marie lui aurait répondu en équation, mais elle a trouvé le trou de verre juste après. Putain,
rendez-vous à telle coordonnée, je t'ouvrirai le portail.
T'imagines, en fait, c'est des voyageurs du temps et tout. C'est un film de SF.
Peut-être. Et toi, Clément, ça te donne envie de voir ce film?
Ça me donne méga envie pour plein de raisons. Le choix de la réal, le choix de l'actrice, j'adore Rosamund Pike, a été incroyable dans Gone Girl notamment. La photo vachement colorée et tout, alors qu'on pouvait s'attendre à un truc un peu austère, genre Une merveilleuse histoire du temps. Moi ça me rappelle un peu ça, le biopic de scientifique où du coup on colle vachement à la réalité et tout. Ok, là ce qui est cool c'est que ça a l'air vachement onirique, il y a des gros plans sur ses yeux, enfin voilà, tu sens un vrai sens du découpage. Et puis je me demande jusqu'où elle va aller dans la biographie de Marie Curie, quoi. Où ça va s'arrêter, est-ce que ça va aller jusqu'à la guerre, etc. Et je trouve que mine de rien ça en dit pas pas tant que ça, cette BA.
Peut-être aussi à quel point elle se l'approprie, à quel point elle va mettre de sa vision dans l'histoire.
Et puis ce qui est ouf, c'est qu'on est obligé d'y penser et d'en parler. C'est avec ce qui s'est passé au César et tout. Le film sort dans le timing, mais parfait. Alors, à part le coronavirus, mais, mais ce qui, j'espère, va pas trop faire chuter les entrées en salle. Mais je veux dire, en termes de féminisme et de. Enfin, ça tombe pile au bon moment, quoi. Donc, il y a moyen que ça marche pas mal. J'espère, en tout cas, que ce sera un bon film et que ça marchera bien.
J'espère aussi, en tout cas, pour donner mon avis, moi aussi, sur cette BA, tout ce côté-là, féministe et tout, à fond, hein, go, 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 il faut montrer, justement, que l'histoire ne s'est pas écrite qu'avec des vieilles couilles fripées. Hein ? Non, non, même les grands pans de l'histoire sont souvent écrits par des femmes, hein, et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, ce film va être là aussi porteur, justement, dans ce climat-là, en ce moment, d'un vrai message d'égalité, enfin, et de reconnaissance. Et moi, ça me botte de ouf parce que je pensais pas avoir envie autant de m'intéresser à la vie de Marie Curie. Donc, j'ai travaillé un peu pour l'émission, je me suis renseigné sur sa vie et tout. Je croyais que je connaissais rien avant ça. Et raconter comme ça, de cette manière, si la BA nous vend vraiment ce qu'elle nous montre, ça va promettre un film ultra rythmé qui va osciller entre plusieurs genres de cinéma, entre le film de guerre, le biopic scientifique, le film de femme, le mélo. Enfin, il peut y avoir énormément d'émotions dans ce film et j'espère que ce sera ça.
Après, le film dure 1h50. J'espère juste qu'elle ne va pas essayer de trop en caser, que du coup, ça va donner des micro-scénettes enchaînées les unes à la suite des autres. Parce qu'en en fait, sur une vie, il y a quand même pas mal de trucs à raconter. Donc,
Oui, il faut que ça prenne le temps de se poser. Et que ça
fais confiance
pas juste
à Marjane, c'est ce qu'elle fait.
Non, bon, à mon avis, ça va attaquer direct sur la rencontre. Hein.
Ça va attaquer direct, bombe nucléaire. Vous savez comment c'est arrivé?
J'adore ce procédé.
Salut, moi c'est Marie Curie. Comment j'en suis arrivé là? Laissez-moi vous raconter mon histoire. Ah, ça tease, ça tease. Du coup, film de femme depuis notre épisode Atlantique. C'est plutôt rare d'en voir dans notre programme parce que tout simplement, il n'y en a pas tant que ça. C'est tout con, mais c'est beaucoup trop rare. Et là, biopic de femme. Donc, je vous avais demandé de chercher un peu parmi vos coups de cœur les biopics de femmes de l'histoire de l'humanité, pas forcément de l'histoire de la France, hein, qui ont pu vous intéresser et qui ont pu peut-être vous marquer. Est-ce que vous avez des exemples dans votre besace?
Oui.
Johan?
Oui. Alors,
qu'as-tu à nous proposer?
Alors, mon coup de cœur pour moi, c'était Hidden Figures. Les figures de l'ombre, qui parlait des scientifiques femmes noires à la NASA au moment du marché sur la Lune et tout ça, donc que j'avais trouvé doublement intéressant parce que ça parle des femmes et de la position des noirs aux États-Unis, donc avec quelques petites capsules.
Il y a Janelle Monáe, non?
Qui est Octavia Spencer. Il a bien marché, ce film, qui a été présent du coup aux Oscars, je ne sais plus de quelle année, mais je crois
2018
que c'est...
2019
Ouais, je crois que c'est pas très vieux. Ouais.
Au moins 2018.
Ouais.
Donc bon film, vous t'as kiffé.
Ouais, c'était cool. Et après, du coup, j'ai réfléchi dans ceux que j'avais vus. C'est à peu près le seul qui est cool, hein, parce que dans d'autres styles, on a Joy avec Jennifer Lawrence.
Alors, je suis pas allé jusqu'au bout, j'ai vu 20 minutes.
Il est bien, Joy, il est bien.
Je sais pas, j'ai pas pu.
Comment c'est le réalisateur déjà? Celui qui a fait
David
Fighter,
David Russell,
j'aime bien ses films.
Bah, moi, le film, je me suis un peu emmerdé devant.
Kevin?
Bah, moi, je rebondis parce que Joy, c'est mon coup de cœur.
Ah, bah, tiens.
Même si j'adore Hidden Figures, c'est super bien. Mais c'est un biopic de femmes. Moi, j'étais sur le film de femmes singulier.
Oh.
Voici la nuance. Non, je rigole. Non,
GG.
Il y a clairement du favoritisme.
Non, mais c'est moi le plus drôle. Non, Joy, moi j'ai trouvé ça super bien. Parce que même si. Parce que moi, vous le savez, j'ai du mal avec les biopics et je trouve qu'avec ce film-là.
On l'avait oublié. C'était toi alors.
Ce film-là, on oublie que c'est un biopic, je trouve. Enfin, il y a quand même une dimension très romanesque dans Joy que j'aime beaucoup en fait et qui m'a parlé plus que dans la plupart des biopics que j'ai vus. En général, parce que des biopics de femmes, mine de rien, j'en ai pas vu tant que ça. Je m'en suis rendu compte là en faisant un peu les recherches. J'en ai pas vu beaucoup. Et c'est très dommage. Il faut que je regarde d'autres, même si j'aime pas les biopics.
Bah, il y en a pas des masses en fait. Hein.
Bah, il y en a beaucoup hein, en fait. Hein.
Et est-ce que vous considérez qu'un biopic c'est retracer toute la vie ou ça peut être juste un instant T?
Non, c'est sur une personne
femme.
Qui existait quoi.
Ça, c'est une bonne question parce que pour moi, je suis plus justement du côté où on retrace quand même une grosse partie de la vie pour que. pour donner une étiquette biopic à un film, il faut vraiment que ce soit au moins sur une décennie, quoi.
Parce bah non, regarde Darkest Tower, c'est pas toute la vie de Churchill.
Oui, ça peut être un moment important, emblématique de la vie. Mmh. Ouais.
En l'occurrence, moi, mon coup de cœur est justement que sur un moment particulier, c'est Jackie avec Nathalie Portman. Et donc, c'est Jackie Kennedy. Et c'est pas du tout toute sa vie. C'est le moment où son mari est assassiné. Et donc, c'est son point de vue à elle à ce moment-là et ce qu'elle vit et comment elle gère après. Ceci dit, c'est quand même raconté avec un surplomb quand elle est... plus tard, qu'elle raconte à un journaliste et qu'elle revient sur ça, donc effectivement il y a un côté biopic. Et moi j'avais bien aimé parce qu'il a quelque chose de très glaçant. Il y a une vraie ambiance, une vraie identité de ce film, je trouve. Je suis allée le voir toute seule et j'ai vraiment pris du plaisir parce que ouais, je m'attendais à un truc chiant, un truc très classique, très ronflant, et en fait il est très glaçant. On est complètement avec elle, perdue, démunie, avec une pression sur les épaules, quelque chose de très oppressant en fait, de tout ce qu'il y a autour et de toute l'institution. Et juste le fait que John Fitzgerald Kennedy se fasse tirer dessus alors qu'on s'y attend pas quand ils sont en voiture, et elle est là dans la voiture avec lui, c'est cet événement est ultra glaçant, et tout ce qui suit après pour elle l'est. Voilà, donc j'avais bien aimé ce film.
Ça lui avait valu à Nathalie Portman une nomination aux Oscars pour ce film. À voir aussi. Comme tu disais, Kevin, moi c'est vrai que j'ai regardé un peu sur internet les biopics de femmes et tout, et j'en ai pas eu beaucoup qui m'ont poupé comme ça. C'est pour ça que je me suis lancé sur des sites genre Allociné ou Sens Critique pour faire un peu le tour. Et il y en a quand même pas mal, hein, mais il y en a pas beaucoup que j'ai vu. Et je suis un peu honteux.
Rebondir sur ce que tu dis, parce que j'ai fait la même chose. Je suis allé voir une liste de biopics de femmes, et en fait, j'étais catastrophé par ma propre lacune en la matière, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'en avais vu quasiment aucun.
Pas GG.
En fait, j'ai vu. Pas GG. TG. en fait, j'ai vu Big Eyes, le film de Burton la peintre qui peint des gros yeux, qui est pas bien, mais c'est pas la faute de. Que... C'est un biopic, c'est que, je sais pas, il s'est foiré, Burton. La Môme, le film sur Edith Piaf, bon voilà, qui est bien, mais qui est quand même assez classique. Et en fait, moi, j'ai décidé en coup de cœur de mettre un truc qui n'est pas vraiment un biopic, qui est Dangerous Method de David Cronenberg.
Ah, yes.
Puisque ça, c'est un biopic sur Freud, Jung. Mais en fait, il y a le personnage de Sabrina Spielrein qui a été la première patiente de Freud et de Jung à être diagnostiquée hystérique, puis à devenir psychanalyste, et qui est jouée par Keira Knightley. Et je trouve que ce personnage de femme est super fort, a une vraie évolution et tout. Et le film tourne quand même énormément autour d'elle, plus qu'autour des deux psychanalystes, donc moi je considère que c'est un peu un biopic. Voilà, je me fais un peu
elle est carrément à égalité avec eux d'ailleurs sur l'affiche, ils sont tous les trois côte à côte au même niveau,
et ce film m'a beaucoup plu, je le revois souvent d'ailleurs,
et puis elle les domine à la fin quand même.
Je prends toutes vos recos parce que j'en ai vu aucun
à voir
depuis tout à l'heure.
Oui, petite mention spéciale aussi pour Scandale qui m'a popé, qui est pas vraiment un biopic, quoique parce qu'il y a
un
instant
chronique
très précis
inspiré de faits réels,
mais c'est pas un biopic, mais bon, c'est un film important.
Je regarde un peu dans les biopics, et c'est vrai que quand on pense biopic féminin, on pense surtout ancien siècle, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal sur des reines. Elisabeth.
En passant, la série The Crown, c'est une série, mais j'adore.
Ouais,
Et pour le coup, là, c'est complètement un biopic au long cours à travers plusieurs saisons.
Série biopic, ouais, mais voilà, Elisabeth, donc la reine, The Queen.
Le film sur Thatcher aussi.
La Dame de Fer, Oscar pour Meryl Streep. Marie-Antoinette de Sofia Coppola.
Ouais, j'ai pas vu.
Et puis, en fait, il y en a plein que j'ai pas vu. Je suis trop dégoûté, mais je m'en veux, quoi. Grâce de Monaco, la reine Margot, j'ai même pas vu la reine Margot, je suis vraiment qu'une merde. Et par contre, j'en ai vu quand même, et j'ai essayé de remonter au plus loin du dernier que j'ai vu. Et le dernier que j'ai vu, c'est mon coup de cœur. C'est Marguerite. Marguerite, ce film de Xavier Gianoli.
Ah oui, avec Catherine Froh.
Catherine Froh, effectivement.
Ah oui, la chanteuse.
Que je n'attendais rien du tout de ce film au moment de sa sortie. Je n'étais même pas allé le voir. J'ai simplement suivi son actualité, et c'est vrai qu'il a cartonné. Et je me suis du coup intéressé à ce film, que j'ai découvert, mais avec grande surprise, quoi. J'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé ce film. Je vous le conseille à tous. Donc, l'histoire de Marguerite, qui est une aristocrate, qui traîne et qui est très riche et qui ne fait pas grand-chose de ses journées, et qui se persuade qu'elle est une grande chanteuse. Mais ce n'est pas le cas. Et la vision de Catherine Froh dans ce rôle-là, c'est ultra touchant. Vous allez rire, vous allez pleurer. Le film est ultra bien rythmé, ultra bien équilibré et très, très, beau à regarder. J'ai été surpris par la photographie, vraiment.
Mais Giannoli, il est bon.
Et c'est vrai que Giannoli est très bon. Hein. Il fait des super films. Et alors là, c'était nickel, quoi. Vraiment, j'ai passé un super moment. Marguerite avec Catherine Fro.
Tu vois, je savais pas que c'était un biopic.
Et ben, cette dame a existé. Oui, oui. On pourrait croire que c'est une histoire de typique comédie populaire française où on va mettre des gens d'une certaine caste dans des péripéties cocasses. Mais non, non, non. La cocasserie est quelque chose de vrai pour Marguerite.
J'attendais de voir comment t'allais arriver au bout.
Mais même moi, je sais pas des fois. Ouais, quand, je me lance et puis on
verra.
Mais avis que dans quelques années, on aura probablement des biopics sans même que les personnes soient encore mortes, mais au niveau de la pop culture, peut-être autour de Céline Dion, Kim Kardashian,
bah Madonna, quand même,
Beyoncé,
biopic de Madonna.
Marie Laurencin, il y aura un biopic à faire, la peintre qui a traîné avec, qui était avec Apollinaire et tout. Il y aurait un super truc à faire sur cette époque. Enfin bref.
Dorothée.
Si vous êtes producteur, je vous donne des petits tuyaux.
Nabila, le film.
Non, ouais, non, pas besoin, on a déjà eu la télé-réalité.
Energy 12 Production.
Donc beaucoup de films de femmes sur des grandes figures historiques à découvrir. Moi je vais m'y mettre. Hein, tout ce que vous avez dit là, il faut que je vois.
Est-ce que je peux en ajouter un sans le développer ?
Non, tu n'as pas suivi, tu n'as pas eu le mémo, Clémence.
Oups.
Non.
On n'ajoute plus.
Si, dans la liste, quand j'avais fait une recherche, j'ai vu aussi Séraphine. Avec Yolande Moreau, sur une peintre. J'avais adoré ce film. Voilà, j'en dis pas plus, mais à voir vraiment.
Il y avait eu des récompenses en plus pour ce film, je crois aussi. Pas mal. Mm. Pas mal. C'est... De toute façon, tout ce qui est biopic, derrière, il y a souvent des récompenses. Hein. César, Oscar. C'est souvent des films très prisés par les actrices parce que. Investir.
Oui, il y a eu celui sur Dalida aussi. Il y a eu.
Camille Claudel, il y en a plein qu'on peut vous sortir.
Camille Claudel.
Il y a beaucoup de biopics sur les artistes.
La Reine d'Écosse aussi.
Et là, c'est biopic sur une scientifique de renom, donc Marie Curie. Nous, cette histoire, on va aller se la voir, mais le titre Radioactive...
Pas terrible. Hein.
Ouais, voilà, ouais. Ça fait penser à la chanson d'Imagine Dragon, c'est pas top. Hein.
Pas la meilleure des références, quoi.
On le change ?
Oui. Allez, on le change.
Fais ton titre.
Fais ton titre, la rubrique qui nous permet de renommer les films de Fais ta BA, donc
qui sortent en salle.
Pas tous, hein, ce qu'on fait, parce qu'on va pas s'amuser à tous les faire. Aujourd'hui, Radioactive, qui a un nouveau titre pour remplacer ce mot.
On a tous des titres, mon ami.
Ouais, on a bossé.
Oui, c'est pas vrai.
Ouais, oui, on a plus le droit de pas avoir de titre.
On a tous des titres.
Je te raconte pas tout, Clément. Qui veut commencer ?
C'est toi qui choisis.
C'est toi.
Ok.
Honneur au vainqueur de la semaine dernière.
Alors moi, j'ai deux titres.
Ok.
J'ai un titre qui est à la fois une référence à Breaking Bad et une référence... Bon, vous allez voir. Ça s'appellerait Science Bitch.
Science Bitch. Avec la tête de l'actrice, ça va être génial.
Il a détruit tous nos propos.
Mais pas du tout, parce que justement, Bitch a été vachement réutilisé par les féministes, justement parce que ça avait un côté dégradant, elles se sont réappropriées. Et c'est pour ça que je me suis permis de donner ce titre Science Bitch.
Oui, puis ça met en avant la science.
Tout à fait. Et un deuxième titre qui est, bon, c'est pas terrible, c'est Chernobyl Origins.
C'était très attendu.
C'est pas terrible. Quoi.
Espèce de voleur.
Genre, t'as trouvé le même.
Fukushima Origins.
Ah, tu l'avais, t'avais celui-là. Ah, putain, génial.
Excusez-moi.
Là, mon ami, top là. Allez, on est trop formaté.
Moi, j'avais Areva Origins.
On l'a qu'à tous les mettre. Hein.
Waouh, Areva Begins. Ah, putain. D'accord.
Mais
Johan,
oui.
Autre chose ?
Non, mais ça fait sens en plus en même temps.
Mmh. Oui, alors après, moi, j'ai beaucoup aimé l'affiche verte, donc du coup, j'appellerais ça Green Mary. Par rapport à Green Lantern, parce qu'il y a du vert.
Green Mary.
Green Mary, ok.
Oh, c'est
Green
pour rien. Mary. Je mettais tous mes œufs sur Fukushima Origins. Hein. Mais c'est raté.
Fukushima Origins.
Ah, je vais rebondir sur Yohan, ça m'a donné une idée.
Vas-y.
Green Curry. Curry vert.
J'en ai mangé un midi en plus.
Sinon, j'avais comme autre proposition au départ, c'était Spicy Curry, justement. Attends, j'ai une punchline pour aller avec Spicy Curry qui est un biopic qui pique avec Rosamund Pike.
J'en ai le nom de l'actrice.
Et attendez, parce que c'est le moment des punchlines, j'en ai une autre qui m'est venue tout à l'heure que j'adore. C'est ne la jugez pas sur son physique, mais sur sa physique.
Ça c'est très 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 bien.
Ça c'est bien. Moi j'en avais une aussi de catchphrase pour elle. C'est une catchphrase chanson.
Vas-y, chante.
Nobel, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle.
Ah ouais, d'accord. Okay. Moi j'avais une catchphrase aussi, c'était essayer de la bombe. Voilà.
J'ai d'autres titres aussi. Comme ça, j'avais pour surfer sur les épices, j'avais aussi poulet au curry. Voilà.
Après poulet aux prunes.
Poulet au curry.
Oui, alors il faut l'écrire. Après poulet aux prunes.
J'avais Marie Curie, épice et tout.
C'est nul.
Non mais épice et tout.
Oui, j'ai compris.
Ah,
compris.
Ah, ah trop bien, je kiffe.
Bah oui, parce qu'elle est malade.
Et... J'aime bien ce titre.
Épice et tout.
Avec ma petite punchline, un biopic qui pique.
Avec ta petite curie.
Aux amandes piques.
Ouais, mon Dieu.
Et après, j'en avais d'autres autour du Nobel aussi, comme
aussi.
Joyeux Nobel.
Ok.
TG.
Ah, et pour faire référence à un autre film et pour faire référence à sa vie directement, car c'est une vraie info, je vous rappelais ce film aussi, Morte un 4 juillet.
Ah,
c'est triste.
C'est pas drôle. C'est
pas... mais ça donne envie de voir le
c'est
film.
C'est un peu glauque de présenter un biopic avec la date de mort. Quoi.
Oui, et puis c'est tout.
Moi j'en ai deux. J'ai Marie à tout prix, mais alors à le verbe avoir, parce qu'elle a eu plein de prix.
Elle a eu à tout prix. Ouais.
Ah.
Et j'ai Nobel Rebelle.
Oh!
Voilà.
Ça nous a inspiré.
Je me suis mis à la fin parce que je me suis dit que c'était pas mal.
Ça nous a inspiré.
Moi, j'aime bien la catchphrase physique, physique.
Ouais, la catchphrase, je trouve que celle de Clémence, elle est excellente.
Physique, physique, c'est bon, on a la catchphrase là.
Terrible.
Tu nous le rappelles, Clémence, j'ai oublié.
Ne la jugez pas sur son physique, mais sur sa physique.
Ouais, c'est très bien.
Ouais.
Et franchement, sur la finale du titre. Franchement, je mets Fukushima Ouichi.
C'est vrai?
Mais non!
Mais juste pour dire, bah si, on peut rigoler un peu. Et
moi, j'aime bien le Marie à tout prix.
Marie à tout prix. Ah ouais, ça va bien avec la punchline. Marie à tout prix, ne la jugez pas sur son physique, mais sur sa physique.
Allez, on fait ça. Marie à tout prix.
Qui a dit?
Bah, c'est le peuple qui l'a dit, c'est nous.
Le peuple. Mais savez-vous que je suis un éminent scientifique et que je m'en fiche complètement de la plèbe.
Ce sera donc Fukushima.
Vous, petite bassesse d'esprit, ce sera donc Fukushima Origin.
Non.
Non, bien sûr, Marie à tout prix, ne la jugez pas.
Non, mais tu fais Marie à tout prix, entre parenthèses en dessous, Fukushima Origins. Et voilà, vous êtes tombés contents.
Avec Rosamund Pike.
Vous savez que c'est pas moi qui fais les affiches.
C'est vrai.
Vous savez qu'il pose des RTT pour faire les affiches. Il n'a pas que ça à foutre.
Non, c'est là que ça à foutre.
Fukushima Origins, ça reste dans le cœur, frère. T'inquiète, je le ressortirai ça à Noël.
S'il y a un autre biopic sur le nucléaire, on le fera.
Du coup, ben oui, Marie à tout
ouais
prix.
Bravo.
Le
titre de Clément et la catchphrase, ne la jugez pas sur son physique, mais sur sa physique, s'il vous plaît.
Messieurs.
Les vieilles couilles.
Ah, les vieilles couilles.
Bravo.
Frippé.
Voilà. Pour remplacer le titre Radioactive, le film de Marjan Satrapi qui sortira le 11 mars. On va se faire, évidemment, hein, en se protégeant contre les radiations d'une possible douille. N'oublions pas qu'on peut être surpris de ce côté-là aussi.
Oui, on n'a pas envisagé que ça pouvait être un mauvais film.
Bonne DA. Mauvais film. Alors là, c'est le combo.
C'est l'équation
c'est le
perdante.
Combo triste, bien sûr. Mmh. On se fera un match retour du coup de ce film la semaine prochaine.
Oui.
Et en parlant de match retour,
oui.
Bah on fait un match retour là.
Oui.
Et donc c'est parti.
Oui.
Qu'est-ce qu'on match ding, retourne
ding, ding. En avant.
Ding, en avant pour le match retour.
Onward.
Ça marche toujours.
Go.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant. C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul.
Allô, Mora? Wingardium Leviosa. Leviosa. Axio Bambula.
DG.
Merci El Calculateur de me recadrer, tu as bien raison. Le match retour d'En Avant, le dernier né des studios Pixar, film de Dan Scanlon qui était déjà à la tête de Monstres Academy, juste pour rappeler un peu sa filmo chez Pixar. Alors, qu'en était-il de ce que nous avions analysé nous la semaine dernière dans cette BA qui nous avait enchanté, hein, disons-le. Je vais vous résumer cette analyse, cette histoire que nous nous étions imaginés. C'est parti. Il y a longtemps, dans un monde magique rempli de magie et d'autres créatures merveilleuses, vivait Gandalf, un grand magicien. Point.
La ponctuation, c'est son fort.
Emporté par le vice de chair, il fut renommé Glandelf, car après avoir planté sa graine, il finit père de deux ados. Mais malheureusement, il disparut un jour, emporté par la mort. Malgré ce départ précipité, il laissa des indices derrière lui, une cassette audio et une lettre. La première explique que la magie était jadis commune, mais qu'elle n'est plus, terrassée par la technologie et la modernité de la culture occidentale. De l'autre côté, la lettre raconte qu'il peut revenir pour une journée grâce à un bâton magique caché dans le grenier et ressorti une fois ses enfants passés les 16 ans. Mais un seul des deux peut utiliser la magie, celui qui ressemble le plus au bâton, le Linguini bleu. C'est con, hein, parce que le grand frère elfe, le elf Fest, lui, il est calé en magie. Linguini étant la pratique et lui la théorie, il lui apprendra multiples techniques et même à tirer sur des jerrycans avec son gros bâton 9 mm comme un bon américain qui se respecte. Alors, l'aventure commence à partir de ce moment-là. Vallées, forêts, ravins et autres pixies, des fées méchamment vénères se trouveront sur leur chemin. Mais en vrai, tout ça c'est du bidon, car le papa en fait est parti se la couler douce au PMU depuis 16 ans, à la fraîche, tranquille. Allez, con. Voilà.
Vous avez contacté du Glandelf.
La fin du résumé, c'est allez, con. Oui.
Okay. Les deux ados.
C'est une manière de, voilà, de, ouais, de juter.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais qu'en est-il vraiment de la vraie réalité, de la vraie histoire ? Je demanderai à Clémence de nous résumer en avant le dernier Pixar.
Eh bien, en avant, c'est l'histoire d'une petite famille d'elfes qui vit dans un monde merveilleux dans lequel il n'y a plus de magie mais que de la technologie, comme chez nous. Et ces pauvres enfants ont perdu leur père il y a bien longtemps, et le plus jeune a 16 ans. Et pour ses 16 ans, eh bien, son père a prévu un cadeau qui est ce fameux bâton magique et cette lettre. Comme tu le disais, nous l'avions bien imaginé parce que c'était écrit dans la BA. Il propose un sortilège pour le faire revenir pendant une journée pour voir ce que ses fils sont devenus. Donc, les deux frères sont au taquet. Sauf que ça ne va pas être si facile que ça en réalité parce qu'il faut maîtriser le bâton et qu'en plus, il faut une pierre spéciale pour pouvoir lancer le sort. Et la pierre s'est cassée, donc il faut aller en chercher une autre.
Ouais,
et voilà comment l'aventure commence. Aller chercher la pierre. Et le grand frère est super enjaillé parce qu'il est super habitué des quêtes magiques. Et il rêve que de ça, c'est de vivre cette aventure merveilleuse. Donc, il embarque son petit frère dans son van. Et voilà l'aventure. Attention, le petit rebondissement.
Oui, la conquête de papa. On aurait pu appeler ce film.
Ah, mais non, mais attends, j'ai oublié de dire surtout, c'est qu'en fait, ils ont commencé à lancer le sort et que la moitié du père est apparue,
ah oui.
Juste ses jambes.
Ça, c'est un élément qu'on n'avait pas dans la BA, donc on a été surpris.
Bah,
juste donc, du coup, ils partent à l'aventure avec, avec les jambes du père et ils ont 24 heures pour pouvoir le reconstituer en entier et pas juste passer une journée avec ses jambes.
Oui, c'est
son zizi.
Et c'est vrai qu'on s'était posé la question pourquoi une journée. En fait, c'est simplement parce que le sort dure une journée.
Ouais.
Et comme ils l'ont activé et qu'il est arrivé juste à moitié, ils vont se coltiner les jambes pratiquement tout le long du film. Quoi.
C'est con parce que si c'était la partie haute qui était apparue, ils auraient pu ne pas faire la quête.
Ah, c'était bien, oui. Là, ils auraient pu taper la discussion.
Ça commence par le bas, ce sort.
Pas de bol.
Ils auraient pu refaire le monde, jouer aux cartes, tout ce qui est possible avec un homme.
Mais ils n'auraient pas pu danser.
Ouais.
Bah, tu le roules. Tu le traînes.
Oui, vu que là ils l'ont attaché à une laisse pour chien pour que les jambes le suivent à ce niveau-là.
Du coup, pour avoir un début d'avis, on va comparer nous la BA qu'on s'était faite la semaine dernière, qui nous avait tous enjaillés. Je le resignale.
tous
enjaillés. Qu'en est-il si on la compare avec le film C'est l'heure du douille ou pas douille?
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'est pas une douille.
Le douille ou pas douille, évidemment, vous connaissez la chanson qui nous permet de relier notre sentiment sur la BA, notre ressenti sur la BA par rapport à son produit final, c'est-à-dire son film.
Oui.
Le principe d'une bande-annonce, en fait.
Tout à fait.
Épisode 35, bienvenue.
Effectivement.
Kevin,
oui.
Douille ou pas douille?
Pas douille.
Bon, je vais vous expliquer.
Je vais vous dire pourquoi.
j'espère que tu vas pas t'arrêter là.
Non, pas douille. J'ai vu un film qui ressemblait à sa bande-annonce. Et sa bande-annonce m'enjaillait, le film m'enjaillait, J'ai de petites réserves néanmoins, mais ça m'a globalement enjaillé. Donc voilà, c'est Padouille.
Ah, Padouille, cool. Cool pour toi. Clémence, douille ou Padouille?
Padouille. Je suis très contente du produit final, comme tu disais, le film. Par rapport à la bande-annonce, j'attendais de la créature, de la magie, du courage et de la fraternité, et j'en ai eu, et je suis très contente.
Et je n'ai point été déçue. Qu'en est-il pour toi, mon petit Johan?
Micro-douille.
C'est la première fois qu'on a accès à une micro-douille.
C'est du Marie Curie, là.
J'ai découvert une micro-douille.
J'ai eu plus l'impression de voir un film Disney que un film Pixar. J'ai trouvé qu'il me manquait un petit niveau de lecture en plus, comme j'avais pu avoir dans Vice Versa. Ça m'a plus fait penser à Un Voyage d'Arlo. C'était sympa, mais je me suis pas emmerdé, hein. J'ai apprécié le film, il est cool, il y a des bons retournements d'émotions.
Comme tu n'étais pas avec nous la semaine dernière pour le faire, est-ce que la BA, toi, elle t'avait enjaillé à ce moment-là?
Oui,
quand tu l'avais
en plus, ça m'avait bien enjaillé, mais du coup, je l'ai trouvé trop simple, le film. Il manquait un petit peu de... un petit truc.
Je comprends ce que tu veux dire, je comprends, parce que je pense qu'on partage à peu près le... à nuancer évidemment, mais je crois qu'on partage le même sentiment.
Toi, c'est une nanodouille.
Nanodouille, effectivement.
C'est la première fois qu'on a cité une nanodouille.
C'est incroyable. Vite, appelez vite la table des scientifiques. Et toi, Clément, en fait, douille ou pas douille?
Eh bien, je n'ai pas pu voir le film.
C'est toi la grosse douille.
Je m'excuse.
C'est toi la méga douille.
C'est toi la douille. C'est G, Clément. Ok,
tu es la douille de l'épisode, Clément.
Donc, vous voyez, mais pour moi, vu que personne ne me demande mon avis, je vais prendre les deux.
Vas-y, vas-y, allez, ton avis.
Non, on lui demande pas.
Posez-moi la question, allez.
Non.
Bon, alors, Romain, voudrais-tu développer en quoi la nanodouille est présente?
Bien sûr, je m'en vais de ce pas à vous développer le pourquoi du comment. Alors, il s'avère que je suis né un beau jour. Petite douille, parce que j'étais ultra enjaillé par la BA de ce Pixar, que je trouvais en plus... plein de mystères, donc c'est ce que j'aimais. Mais par contre, pour rejoindre un peu ce que dit Johan, j'ai pas eu ce que j'attendais vraiment. C'est-à-dire que la bande-annonce me vendait de la poésie, me vendait une grosse dose d'humour et d'action, et avec un équilibre à la Pixar comme on le connaît. Et j'ai pas réussi à retrouver ça. Mais c'est attention, tout est relatif, ça reste quand même... un super film, et d'ailleurs on va ouvrir tout de suite la page de nos avis pour recoller un peu avec ce premier sentiment sur la BA. Clément, non, t'as pas vu toi.
J'ouvrirai la page.
Voilà, tu peux commenter. Voilà,
je fais des bruitages.
Tu peux toujours t'occuper d'El Calculator.
Oui, oui. Bon, ils s'aiment pas trop les deux. Hein.
Je sais, mais bon, à la limite, ça peut-être les rapprocher.
Tu te fais rater, vas-y, fais comme chez toi. Hein.
Fais comme tu veux.
Du coup, on est un peu sur des teams enjaillés.
Ce que j'étais en train de me dire dans ma tête. Mais maintenant, je le dis dans le micro.
Les colocs, ils sont plus enjaillés et nous, on est plus mitigés.
Avec une micro-mitigage.
Bah, allez, on ouvre l'enjaillement d'abord.
Mitijade.
L'enjaillement.
Une mitijade.
Clémence, ton avis sur le film?
Ah, j'avais pas envie de commencer, je voulais rebondir sur vous, mais allons-y.
Ça y est, ça.
Tu veux rebondir, bah, quand même.
Épisode spécial femme.
Tu m'avais pas permis de rebondir.
Un parc d'attractions. Toi.
Ah, toi, t'es plutôt rebondissant. Okay.
Ben non, écoute, alors je comprends pas pourquoi tu dis que t'as pas eu d'action, parce que je trouve qu'il y en a vraiment. J'ai beaucoup aimé le mélange d'émotions et d'action de ce film. Il y a des scènes quand même, les courses-poursuites avec les motos, les pixies sur leurs motos, le moment où les flics les arrêtent et que c'est tout en tension parce qu'ils ont jeté un sort et que le gars est transformé mais il faut pas qu'on le voit. Surtout le moment avec le pont-levis à rabaisser au-dessus du grand gouffre sans fond. Moi, ça m'a parlé parce que gouffre sans fond, je fais ce cauchemar depuis toute petite où je tombe dans un gouffre sans fond et j'avais tellement peur que le héros tombe dedans, et donc il est censé jeter un sort pour faire une passerelle invisible et y croire à fond pour pouvoir marcher dessus sans tomber, et c'est hyper tendu, quoi, enfin, parce qu'il a une corde et après la corde se détache et il risque de mourir à tout jamais.
Ouais, mais on sait qu'il va pas mourir.
Je tremblais complètement avec. Et puis voilà, il y a ce genre de scène, et puis il y a aussi beaucoup d'humour, et puis évidemment de l'émotion. L'intrigue, elle arrive toujours à recouper par des petits détails, des petits effets d'annonce, des choses qui vont revenir plus tard et qui auront de l'importance. Je trouve que ce niveau-là, c'est super bien écrit. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit une relation forte entre deux frères, très très touchant. Donc... Voilà, moi, honnêtement, je le mettrais pas en mineur. Je le mets clairement au-dessus du voyage d'Arlo, que je trouve vraiment anecdotique dans son histoire, tandis que là, il y a quand même un vrai développement et une justesse psychologique. Après, c'est sûr que c'est pas un vice-versa, mais parce que vice-versa, il met la barre tellement haut en termes de concept. Là, t'as pas un concept inventé, c'est une utilisation d'un univers qu'on connaît tous, dont on maîtrise les codes, et ça s'amuse avec ça. Mais voilà, je le mettrais entre les deux, et je le mettrais plutôt dans les majeurs. Par exemple, je l'ai préféré à Coco.
Bah justement, pour rebondir, si tu me permets de rebondir sur toi, Clémence.
Non, celle qui rebondit.
Bah, rebondis pour moi et puis
contre-rebondissage.
Je l'ai aussi vu en deuxième.
Contre-car, rebondis. Non. Justement, tu utilises les mots mineur, majeur, et justement, je voulais faire un point là-dessus parce que je tiens quand même à préciser vraiment que tout est relatif. Et là, on va parler d'un Pixar, et clairement, les gars, ils maîtrisent. Là, on est clair. Le film, voilà, Pixar met tellement la barre haut, comme tu dis, qu'on peut se permettre d'avoir certaines petites touches de déception, mais qui sont minimes en fait. Hein, vraiment, ce que tu dis, ils m'ont peut-être habitué à mieux, mais c'est un effet de génie, ça. C'est à force d'être habitué à du géniesque, parfois tu tombes sur un très très bon film que je trouve très bon, hein, en avant. Mais il y a des petits mais qui traînent. Et justement, pour revenir sur ces Pixar mineurs, ces Pixar majeurs, c'est vrai qu'on peut établir une liste de certains Pixar qui sont au-dessus du lot. Hein, je pense à certains Toy Story par exemple qui sont clairement des chefs-d'œuvre, Vice Versa qui est clairement un concept là-haut. Oufissime là-haut, qui ont une poésie et qui ont quelque chose qui appartient même à Pixar. Et cette essence-là, je ne l'ai pas retrouvée dans ce film. Alors, je ne peux pas dire que c'est un film mineur parce que j'ai plus envie de dire qu'il y a des Pixar mineurs et majeurs. J'ai envie de parler des réalisateurs qui sont derrière. Mmh. On a tendance à parler toujours de Pixar en avant. C'est vrai que le studio a quand même une aura très très forte, et on a tendance à oublier qu'en fait, ce sont des réals qui sont derrière et qui ont aussi leur mot à dire et qui ont aussi leur univers. Notamment pour Dan Scanlon. Dan Scanlon, je l'avais dit, il a réalisé Monstre Academy. Et Monstre Academy, je le considère, si on peut dire ça comme ça, même si je ne veux plus utiliser ce terme, comme un Pixar mineur. Et Monstre Academy, c'est Dan Scanlon qui l'a fait, et je trouve qu'il réutilise, c'est peut-être sa patte en fait, et étant donné que c'est son deuxième film, on peut peut-être déjà commencer à établir un schéma. Les films d'ado, c'est pour lui. Monstre Academy, c'est un film d'ado, hein. On suit Sully et Bob pendant leur période de fac. Donc il a aussi ce côté teenage et tout, et peut-être que Dan Scanlon en fait est appelé lui à faire ce genre de films, qui sont des très très bons films. Alors il y a de l'action, il y a tout ça, mais je m'attendais quand même, voilà, à avoir un truc à la vice-versa, même si j'avais des doutes sur ça, étant donné que Soul, peut-être le gros Pixar de l'année, arrive.
Ouais, mais juste pour rebondir rapidement, parce que je tenais à rebondir. moi j'en ai un peu marre qu'on dise que parce qu'il y a un schéma et que Soul arrive derrière, on juge celui-là par rapport à Soul qui arrive derrière. Je trouve que ça n'a pas de sens. Mais donc je l'ai pris en tant que tel. Après, je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut arrêter de dire Pixar, tout est Pixar, et il faut penser au réel et à l'ambiance de chacun. Et pour le coup, c'est certainement subjectif, du coup. Moi, je trouve que l'ambiance de celui-là, je la mets au même niveau que là-haut, par exemple. En termes de dosage, d'aventure, d'émotion et tout, je le mets au même niveau que là-haut. Et je mets clairement au-dessus de Monstre Academy, vraiment, parce que Monstre Academy, il y avait des petits épisodes d'action, de trucs un peu suspense, mais ça restait effectivement des machins de fac. Ça allait pas plus loin. Là, ça va quand même plus loin.
Non, mais y a des choses qui sont très fortes dans le film qu'on va retrouver, qui sont clairement. Tu te dis, il n'y a que Pixar qui peut gérer ce genre de trucs. Tout ce qui est l'histoire de la famille, la manière dont c'est amené, le voyage initiatique qui fourmille de symboles et de métaphores qui font sens et qui s'imprègnent. Le grand frère qui devient petit, le manque du père remplacé par le grand frère. Ce genre de sujets qui sont forts et qui peuvent parler à tout le monde. Pour le coup, là, ils y sont, mais c'est dans la narration du film que j'ai pas retrouvé quelque chose de très poétique et de très féerique même, parce que le contexte de ce film est ultra bien pensé, mais je trouve que dans d'autres Pixar, avec d'autres réals, notamment Pete Docter, hein, qui est derrière là-haut, ou même des réalisateurs comme Leon Critch ou même la 7 heures au début, je trouve qu'ils avaient ce côté qui leur appartient, qui est c'est même, il y a pas d'adjectif pour ça, c'est le Pixaresque, quoi. C'est un truc qu'ils ont inventé eux.
Ça décolle en fait.
Pour rappeler ce que disait Johan, c'est qu'il disait que c'était un Disney. Je comprends ce que tu veux dire. On est sur un film classique qui n'a pas peut-être cette envolée. Quand tu vois Vice Versa, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, mais tu fais waouh, putain, tout est pensé, quoi. Mais j'ai passé quand même un très bon moment, attention, voilà, c'est vraiment juste pour chipoter, hein, c'est vraiment juste pour aller chercher la petite bête. Kevin, pour peut-être contrebalancer.
Pour rebondir.
si tu veux rebondir, oui.
Je rebondis. Parce que je suis pas d'accord avec toi. Moi, je vais déjà me débarrasser de mon mini bémol, qui est, moi, c'est plus esthétique. J'ai un petit bémol esthétique. Je trouve que la DA est pas ouf dans ce film-là. Je m'attendais un peu à mieux du côté de chez Pixar. Je trouve que voilà, le chara-design voilà, peut mieux faire, quoi. Donc j'étais un peu déçu de ce côté-là. En revanche, je trouve qu'il est méga bien écrit, ce film. Et contrairement à toi, j'y vois de la profondeur. Par exemple, je trouve que toute la fin du film, la dernière demi-heure, et les choix qui sont faits par les personnages sont hyper émouvants, en fait. Et c'est pas du tout classique dans un Disney, tu verrais pas ce choix-là. Enfin, je vais pas spoiler pour que Clément ne connaisse pas la fin, vu qu'il n'a pas vu le film. Mais un Disney ne l'aura pas fini comme ça. Il aurait fini dans l'autre sens, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, mais la comparaison
à gauche au lieu d'à droite.
La comparaison avec Disney, elle est pas sur ça exactement. Elle est sur le squelette général.
Mais même je trouve que ça ressemble à du Pixar. Enfin, c'est du Pixar, quoi, pur jus. Le bémol artistique est là. Effectivement, c'est peut-être moins poussé qu'un vice versa qui faisait déjà figure d'exception à l'époque dans un pic dans Pixar. Hein. Des vice versa, il y en a qu'un. Et après, t'as là-haut et on va dire que t'as vraiment que deux films qui sont allés aussi loin dans la psyché, quoi. Là, celui-là, non, je le trouve très équilibré. Moi, je le trouve, c'est niveau des classiques type Mille et une pattes, type tout ça, en fait. C'est du bon Pixar classique. Certes, ils nous ont habitués à une ligne directrice qui évolue et qui s'autorise au fil du temps, ce qu'on aura certainement avec Soul, mais je crois que vraiment dans Pixar, maintenant, il y a deux écoles. Il y a l'école un peu autoriste, un peu on va plus loin, et l'école on vous fait des bons films d'aventure avec de l'émotion, mais plus classique. Celui-là, il fait partie des classiques.
Oui, ça reste quand même un bon film. Ouais. Mais voilà, ma préférence va sur les concepts, style là-haut, style vice-versa.
Mais je comprends.
Mais ça ne m'empêche pas de kiffer, par exemple, les Toy Story, qui sont, mine de rien, très classiques, mais tout est joué dans les émotions. Johan, tu veux peut-être plus t'expliquer sur ton mitigage.
Oui. En fait, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que déjà le contexte de société actuelle dans lequel il n'y a plus de magie, on l'aborde quasiment pas.
Oui, c'est vrai que c'est aussi un truc.
C'est juste pour dire qu'on fout des elfes et pour foutre de la magie. Du coup, il n'y a pas de réflexion plus profonde.
Le fait que la manticore ne soit plus vraiment une manticore ou que les fées ne volent pas, pour vous, c'est pas abordé le fait qu'il n'y a plus de magie.
Pour moi, c'était trop peu. Je m'attendais vraiment à plus qui reparle.
Mais je suis pas d'accord. C'est parce que c'est pas un film de lore. C'est-à-dire, c'est pas l'univers qui est le plus important. Ça illustre juste la relation de ses frères avec leur père et avec la magie perdue qu'ils ont dans leur cœur, en fait.
Oui, mais
c'est juste illustratif.
Mais ça montre aussi d'autres personnages qui retrouvent leur lien avec la magie. Et c'est parce que ça va dans ce sens-là, en fait. C'est que ça ne prend pas le temps de développer le fait qu'il n'y a plus de magie. Ça montre ça comme un état de fait au départ. Et ensuite, ça montre des personnages qui vont récupérer la magie.
Mais il y a quand même un truc qui est chelou, et parce qu'on s'était fait la réflexion dans l'épisode précédent, c'est qu'on pensait que la magie n'existe plus. Mais en fait, la magie, elle existe. C'est juste que c'est eux qui veulent qu'ils l'utilisent plus. Elle est totalement tombée de.
Parce qu'ils l'ont oublié.
Elle est totalement démodée, en fait. Elle est tombée dans le
domaine oublié. Ils ont la flemme de la magie.
C'est même pas genre la magie s'est éteinte du jour au lendemain et puis il faut faire avec.
C'est qu'ils l'ont oublié, c'est qu'ils se sont dévoyés. La Manticore, c'est l'exemple parfait. C'est la créature qui, au fur et à mesure, a perdu l'essence même de ce qu'elle était à l'origine et qui est rentrée dans le merchandising et le système, quoi. Et moi, je trouve que c'est un super film de gauche.
Bon, après, il y a d'autres scènes aussi qui m'ont embêté, mais c'est du chipotage. Tu peux continuer sur ta lancée, si tu veux.
Oui. Ouais, et j'ai trouvé qu'ils auraient pu aller plus loin, en fait. Je trouve qu'ils sont pas allés plus loin dans le côté jeu de rôle, pop culture actuelle, de tout ce qui est Donjons Dragons et machin et tout ça. Ils sont pas allés assez loin, j'ai trouvé. On a l'impression qu'ils ont été regarder la page Wikipédia du truc et guère plus, c'est pas plus
peut-être aussi un côté où on utilise moins les capacités de ces créatures magiques. On avait imaginé, tu vois, un monde vraiment où, comme dans Zootopie, où ce serait vraiment montré, tu vois, où le paresseux et fonctionnaire. Enfin, tu vois, il y a des réflexions comme ça. Et je trouve que c'est pas beaucoup montré dans le film. C'est on met des cyclopes là parce qu'il faut mettre des quelqu'un. C'est pas, il y a pas une vraie réflexion sur ça.
Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est aussi un film sur le potentiel inexploré et que montrer justement des cyclopes, des centaures, des ogres qui n'utilisent pas leurs capacités, c'est aussi montrer, regardez tous ces gens qui ont du potentiel et qui s'en servent pas. Et le film parle beaucoup de ça.
Oui. Et ça montre pas d'un point de vue large de la société le côté moderne. Par contre, ça le montre dans un cadre plus intimiste. Et par exemple, le Van du grand frère est presque un personnage à part entière. Mmh. D'ailleurs, ils le considèrent comme une personne et va avoir une vraie utilité dans leur quête. Et ça, c'est complètement décalé parce qu'ils sont dans un monde merveilleux et vont utiliser le Van pour un truc particulier. Alors que c'est un élément moderne.
La quête est vraiment très intelligente. Par contre, sur ce coup-là, c'est que c'est vrai qu'ils évoluent dans un milieu moderne et donc du coup. Le truc où t'es censé être le rocher mystique et tout, bim, ça va être un supermarché, tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc ça c'est cool de retrouver cette espèce de vieille quête de fantasy intégrée dans un côté urbain. Quoi, c'est...
Même le choix de la créature à la fin, la créature
ça,
antagoniste,
ça
bah ouais, mais c'est moderne en fait,
ouais,
tu vois, c'est pas un vrai.
Bah justement, c'est pas un... Là, franchement, j'ai été très déçu pour ça, parce que le film, on te dit, bim, il va y avoir un dragon, un machin et tout, et puis à la fin...
Ils disent un sortilège.
À la fin, voilà, je trouve que là, ils sont sortis avec un petit.
Non, c'est du génie.
C'est super.
Ouais, c'est génial.
Ils disent pas qu'il va y avoir un dragon, ils disent qu'il va y avoir une créature la plus infâme. Et puis, ben, en fait, la créature est faite de modernité.
Moi, j'aurais adoré, justement, là, à ce moment-là, que pour la toute fin, ils rallient vraiment le côté fantasy pur, quoi. Bim. Que ce soit la vraie fantasy du Seigneur des Anneaux qui débarque dans la ville et que ce soit pas la ville qui.
Enfin,
le
côté urbain.
Oui, mais...
C'est juste qu'il prend des éléments et des décors qu'il y a autour. Mais... Et moi, je trouve que c'est du génie de mettre la tête du dragon, enfin, la tête du, de la mascotte des joueurs de foot sur la gueule du dragon, ce qui fait qu'il a une tête ridicule.
Il y a ce
génial.
Côté légendaire derrière la magie et tout. Et j'aurais préféré vraiment une apothéose, vraiment, justement, à fond là-dedans, quoi. À fond là-dedans. Et le fait de se retrouver face à du béton, quoi, c'était un peu chelou.
Ouais. Maladroit, c'est le terme que j'ai ressenti.
Définitivement,
je suis pas d'accord avec vous.
Je peux dire
opposé.
Mon avis. J'ai pas eu le film. Hein. Bah, moi, en fait, en voyant la BA, j'étais absolument pas hypé. Et en fait, c'est drôle parce que tous les défauts que vous dites, c'est exactement ce que je ressentais devant la BA. C'est-à-dire, ce que tu dis, Kevin, je trouvais que la direction artistique avait rien de spécial. C'est sûrement très, très bien fait et tout, mais je retrouvais pas la patte Pixar qui fait que les personnages, tu t'en rappelles au niveau du look, quoi. Ouais. J'avais l'impression de regarder une BA Disney, donc je retrouve ce que tu dis, Johan. Et le côté, ça va être une belle histoire classique, mais il y aura rien de plus. Enfin, il y aura pas un niveau supérieur comme dans les autres Pixar. Mais en même temps, votre passion me donne envie de le voir et je me dis, il doit y avoir, ça doit être,
non, je pense
ça doit être intéressant quand même à voir.
Je suis sûr que ça te plairait, Clément.
Ça te plairait bien. Ça reste un bon film, hein. Je suis sorti avec la banane et tout, mais...
Oui, c'est pas du tout mauvais.
Alors, par contre, tu demandais si on avait pleuré au début.
Ah, moi, j'aurais aimé pleurer, justement.
Moi, je m'attendais à pleurer ma race parce que j'avais entendu...
Je m'attendais pas.
Mais vraiment, parce que déjà, en ce moment, on peut dire que j'ai failli pleurer devant l'appel de la forêt et que je pleure devant tout en ce moment. Donc là, j'étais vraiment ouverte au truc, quoi.
C'est les hormones, ça, attention, hein. Non, peut-être un berlingot dans le coffre.
Je suis quelqu'un d'entier.
Pas en plus.
Mais non, c'est parce que je m'identifie complètement au personnage et que je me mets avec eux, quoi. Mais du coup, j'étais complètement avec eux, mais je suis presque déçue à ce niveau-là parce que j'ai pas pleuré ma race et mais j'ai été émue. J'ai eu la boule, mais j'ai pas chialé.
Bah, moi, ça m'arrange parce que si j'avais pleuré, j'aurais reniflé. Et du coup, avec la panique du coronavirus, je me serais fait jeter de la salle. Non, c'est bon.
Tant que tu tousses dans ton coude, tout va bien.
Pardon.
Dans le coude, on a dit.
Et vous avez pleuré, les garçons?
J'ai failli. Et pourtant, c'est rare. Alors, en revanche, je suis
d'accord.
T'as
quand même un cœur.
Tu comprends? J'ai dit que.
Regarde, vous l'avez pas vu.
Enculé
les auditeurs,
de scientifique
mais...
de merde.
J'ai dit que le film jouait très très bien sur les émotions et j'ai trouvé ça alors très couillu en effet de la part du réal de faire un truc à la con. Ils sont sur l'espèce de curly géant là machin, c'est tout mignon, c'est trop drôle et tout ça. Et puis boum, non, en fait, le fait que le dernier souvenir du grand frère, ça soit son père branché à l'hôpital et que il est parti en courant. Et là, toi, t'es là.
C'est triste.
Okay.
Ah oui, il te balance quand même des trucs dans la gueule, le film.
Oui.
Hein. Il n'est pas inoffensif.
Ah non.
Ça te balance des bons petits
et
trucs.
Et
mais...
ce fait de « Ah, c'est drôle, là, ça redescend tout d'un coup sur du dépressif, il est pouf !»
Par contre, gros big up sur le rôle du grand frère. Alors là, vraiment, ça, c'est une belle douille positive de la BA, parce que le grand frère, on a l'impression que ça va être le Goliot de service, le second rôle et tout.
Pas du tout.
Il est présenté comme ça, mais pour mieux te frapper. Alors là, par contre, j'ai été surpris sur ce coup-là, c'est qu'il y a une vraie part... très importante de chaque côté. On pensait que Linguini allait être vraiment le perso principal.
Le héros, il s'appelle Yann, on précise.
Oui, Yann,
Tom Holland.
Yann, le héros chétif, et son grand frère un peu plus balèze. On pensait que ça allait être lui vraiment au centre. C'est le cas, parce que c'est lui qui dirige la magie, en fait. Mais le frère a une importance dingue. Mm. Et ça fait sens avec la fin du film. Malgré tout, bon, j'aurais aimé pleurer. C'est ça qui m'a manqué.
Mais peut-être que t'attendais trop à pleurer.
Oui, peut-être.
Faut pas s'y attendre.
Mais c'est à cause de Pixar, ils sont trop bons aussi.
T'arrêtes pas de nous faire chialer, c'est con là.
Quand ils font juste des films qui sont super, moi je veux des films qui sont super, super, super.
Qui sont super bien.
Mais je reconnais le côté, je comprends quand tu dis côté Disney et tout, parce que c'est pour revenir un peu plus en arrière, quand j'ai découvert les premières images du film, je l'avais découvert dans une compilation de BA. Donc on passait d'un film d'horreur et tout, c'était des compilations montées comme ça un peu. Et donc du coup, tout d'un coup, bim, je vois ces personnages bleus qui débarquent. J'étais pas du tout au courant de l'existence de ce film. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ce nouveau DreamWorks?
Et là, oui, oui, et quand même, je vois, ça fait même.
Et quand j'ai vu Pixar affiché à ce moment-là, je fais, ah, c'est un Pixar, c'est surprenant, tiens. Parce qu'on les attend pas forcément là et surtout sur cette direction artistique-là.
Mais ça, c'est indéniable, effectivement, c'est ce que pointait Kevin, c'est qu'en direction artistique, c'est certainement pas assez abouti et que les personnages sont trop lambda et trop comme plein de personnages que tu vois dans d'autres films d'animation et qui ne sont pas forcément des Pixar.
À part le père, je trouve, tout le moment où il est en moitié, où t'as ses jambes et qu'ils mettent le fameux anorak au-dessus pour faire croire qu'il a un corps, il y a quand même des scènes où ils arrivent à donner de l'expressivité à juste un polochon, quoi.
Ouais. C'est trop drôle.
C'est juste génial, c'est quoi. Il y a des moments de mise en scène comme ça qui sont incroyables, notamment avec les fées. Ouais.
L'animation, ils ont tous les meilleurs animateurs du monde. Ils sont chez Pixar.
Ça, c'est gros, gros boulot. Et puis, petite mention, toutes les meufs de ce film sont des meufs badass. Et ça fait plaisir.
Ouais, ça, c'est clair.
Celle qui poutent le dragon.
Il y a Marlène Schiappa.
Au secours.
C'est Bibi Hadier.
Et vous l'avez tous vu en VO.
Ouais. Oui. Okay. Oui, parce que
parce qu'on est snob, ok.
Parce que voilà.
C'est
quoi.
Votre droit.
Bon, mitigé, enjaillé, mais on a quand même un bon terrain d'entente.
On est quand même content,
mais on s'aime
globalement.
Mais ça restera pas. Ce sera pas le Pixar que je vais me remater pour le mater, quoi. Genre vice versa, je peux me le mater 2 à 3 fois par an. En avant, ce sera un peu moins.
Comme une fois et demie.
Non mais c'est comme Monstre Académique. J'ai vu qu'une fois, j'ai passé un bon moment et puis j'ai plus envie de le revoir, en fait. Voilà.
Un jour peut-être.
Peut-être que je suis pas fan à fond de Dan Scanlon, mais il a beaucoup à apprendre, c'est que c'est son deuxième film. On va se dire Rococo.
Ah oui, on va recommander le film.
Parce voilà. Évidemment, il faut qu'on prévienne les gens de nos. Allez.
À qui le Rococo?
À qui le recommandez-vous?
À qui le Rococo?
À qui le recommandez-vous?
À qui?
À qui le recommandez-vous? À qui recommandez-vous ce film? Où vont vos rococos cette semaine avec En Avant? Johan?
Non, bon, n'importe qui aime bien
le
film.
Ah, la réponse bateau.
Je le recommande à tout le monde.
Bah, j'aurais bien dit à mon frère, parce que c'est un connard, mais c'est pas vrai. Donc c'est...
Mais ce qui n'est pas vrai.
Je le recommande à mon frère parce que c'est un connard, ça c'est super bien.
Et après il a rajouté, mais ce qui n'est pas vrai. T'es torturé toi un peu, toi, non?
Non.
Il n'assume pas ses propos.
Kevin, à qui le rococo?
Moi, je le recommence à Ben Barbeau, l'organisateur du Hellfest, parce qu'il y a quand même une magnifique veste à patch. Et je crois qu'il faudrait quand même s'en inspirer. Voilà.
J'avoue que le Hellfest, c'est vrai que ça rappelle un peu le Hellfest, le côté un peu féerique, tout ça.
Non, la veste à patch surtout.
Je suis jamais allé au Hellfest.
Non, mais je te rassure, il n'y a pas trop de licornes au Hellfest. Enfin, ça arrive des fois, il y a des mecs en licorne, mais c'est rare quand même. Voilà.
Clémence,
je recommande à tous les jeunes gens qui ont 16 ans et qui ont l'âge de passer la conduite accompagnée et qui sont ultra flippés quand il faut rentrer sur l'autoroute. Je l'ai vécu aussi, ouais. Je me souviens. Ce moment où tu vois les camions qui arrivent derrière et que tu dis non, je n'y arriverai jamais.
Ah, tu vois, ça c'est encore un truc à la Pixar, ça c'est.
Ouais. Et ben voilà, dans ce film, on voit que faut y aller les gars, il faut rentrer dans le tas et il faut s'insérer dans la file.
S'engager, c'est dégager, voilà. Moi, à l'auto-école. Et j'ai toujours retenu, s'engager, c'est dégager.
Clément, mon petit doigt me dit que tu as une rococo.
J'ai une rococo,
mais
en fait, je suis en train de réfléchir, qu'Arwen a dû sûrement la faire 1000 fois à l'épisode d'avant que je n'ai pas encore écouté. C'est à tous les habitants de Guingamp, parce qu'en avant, Guingamp.
Ah non, lui, il avait fait une blague sur le stade toulousain.
Ah ok.
Mais c'est du foot tout ça, c'est ça?
Ouais, c'est le club de foot de Guingamp qui
c'est
est
bien du
foot. Précisé
pour ceux qui ne sont pas des
aficionados. Si le jeu avec le ballon, c'est ça.
Et c'est le seul club qui s'appelle En Avant Guingamp. Voilà.
Oh. Et toi,
Romain?
Ah pardon, t'as oublié.
Pardon, je m'étais endormi.
On est où là? Je sais plus.
Marococo, ce serait une rococo musicale.
Oh.
Car le premier mot qui sort de la bouche d'un personnage, d'un personnage de ce film, le premier mot qui sort, c'est un sort. Et je fais une rococo à tous les fans de Shaggy car bombastica et je fantastique mon god the groove. Vous ne connaissez pas Shaggy?
Si, non, mais si, on n'a si, pas si. Reconnu dans ton interprétation.
C'est
fantastique. On va vous la mettre à la fin de l'épisode.
Du coup, le film s'ouvre sur ça et bombastica et moi j'avais direct bombastique. Pratiquement toute la première partie du film bombastique.
Mais c'est quoi? C'est à quel moment? C'est
quoi?
Dès le début, c'est le sort de feu d'artifice.
Parce que le sort feu d'artifice.
Le film commence comme la BA commence quoi, en mode il fut un temps. Il y avait un peu des trucs de merveilleux direct dans le truc et tout. Et ouais. Puis le mec qui se lance son sort, c'est bombastica.
D'accord.
Voilà, même pour moi, dans ma tête, c'était Shaggy.
Bravo.
Une belle recommandation.
Une belle rococo.
J'aurais pu creuser.
T'aurais pu. Tu peux creuser là maintenant, si tu veux.
Avec l'appel de la forêt.
Merci, au revoir.
On arrête tout et on va se dire au revoir. Me fantastic,
put me on my box, she says I'm Mr. Roe. Moi je fais des suggestions et puis mais à aucun moment on m'écoute, j'en ai marre.
Voilà l'épisode. pour vous expliquer, Kevin il est vénère parce qu'on s'est pris la tête en antenne.
Ouais, mais c'était violent.
TG.
Hey, qui c'est qui a fait le calculateur là?
Mais c'est le calculateur.
TG, Clément.
Ça te pose un problème? T'as un droit sur le calculateur?
Non. Il vit en nous, Clément. Il vit en nous.
Et le calculateur, est-ce que tu appartiens à quelqu'un autour de cette table ou est-ce que tu es un être indépendant?
Je suis un être indépendant.
Mais. Tu peux laisser répondre le calculateur, Kevin?
Non, je suis un être indépendant.
Bon allez, on va l'éteindre, le calculateur, tu m'as vénère. Voilà. Le voyage de cet épisode qui nous a emmenés sur les contrées de la radioactivité, mais aussi du cinéma, d'une femme avec une autre femme qui parle du combat des femmes, peu importe l'époque en fait, on se rend compte que c'est intemporel, c'est triste, c'est ça qui est triste en fait, c'est qu'il y a encore du chemin quoi. Et ben allez Marie Curie, on est tous derrière toi.
Et elle est morte.
Quoi?
Tu peux aller la voir au Père Lachaise.
Au Panthéon elle est, avec son mari Pierre.
Au Panthéon.
avec son mari Pierre.
Marie et Pierre Curie, tu peux aussi les trouver à la ligne 7.
Oui, Pierre et Marie Curie. Oui, à Paris 7.
D'ailleurs,
c'est
petit,
Paris 7.
Petit fun fact, la station avant s'appelait juste Pierre Curie. Et ils ont décidé de rajouter Marie Curie derrière.
Même, parce les que, bâtards.
Parce que, RATP, vous avez pas retenu de l'histoire.
Oh, merde. Déjà, Louise Michel, ça s'appelait Michel Louis au début, c'était inadmissible.
La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va se faire?
Ah, je sais pas.
Comment vous teasez ça?
Taisez-vous.
Faudra bien fermer sa gueule.
TG.
Voilà. Il était pas éteint, lui.
Il est en veille, des fois.
Ah, tu veux dire que c'est un podcast silencieux? Ah,
on aura une partie silencieuse, sinon ça va attirer les monstres.
Comment on va faire?
Tu veux
compris.
Parler de...
J'ai compris le film que ça va être.
Without a noise.
No way.
Sans un bruit de...
Without a noise, the second one.
The second part. Oui, on va aller faire un tour du côté d'un petit film d'horreur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de l'horreur. Et puis, il y aura une petite surprise pour cet épisode. Je ne vous en dis
qu'est-ce que ce sera
pas plus. Et puis...
On prépare des choses.
Si vous êtes arrivé à cet épisode-là pour la première fois, n'hésitez pas à découvrir nos autres épisodes qui sont sur toutes les plateformes de podcast.
Il y a 34 autres. Bon chance.
Voilà, même plus, parce qu'il y a 3 autres, il y a 3 hors-séries. Donc, faites-vous plaisir, on a pléthore d'épisodes à vous proposer. Ben, pratiquement, on a dépassé la cinquantaine d'heures, là, je crois, hein, d'épisodes. Donc, vous pouvez nous écouter pendant 2 jours de suite sans interruption. Oui. Non, ne le faites pas, hein, parce que après, c'est l'asile. Hein,
vous allez devenir fou.
C'est Sainte-Mangouste direct.
Allez, salut.
Et on se retrouvera à la grande exposition universelle.
De 1900.
Qui...
On vous y attend. J'avais pris du stalonium. Excusez-moi.
Ah, elle a pris du stalonium.
Vas-y, fais tourner le stalonium. On se dit au revoir avec ton stalonium.
Vas-y.
Au revoir. Au revoir à tous.
C'est pas ma guerre.
C'était pas mon au revoir.
GG.
Ah, il en a pris aussi le calculateur. Trop mort.
Voilà.
Putain, le coronavirus, ça fait des ravages. Hein.
Merde, dans le coude, pardon.